Pascal Boisard, qui est un peu bizarre, il dit « C'est juste une comédie, n'est-ce pas ? Sauf que Vincent Lindon est à fleur de peau et véritablement humaniste, et François Damiens incroyable d'émotion par le regard. C'est simple, en fait, ils ne sont pas plus fous que moi. C'est rassurant. »
Oh, mais wow. Il est bizarre. C'est quoi ces gens qui se posent des questions à eux-mêmes en commentaire? Oui. Quoi? Encore un film qui parle de ceci? Mais je n'irai pas.
Mais... Je suis offusqué. Le cinéma français n'est plus ce qu'il était. La grande vadrouille, ça, c'était du ciné.
Non, mais c'est vrai qu'il a fait une introspection personnelle.
Mais il y a des gens, ils ont peut-être besoin d'aide, et nous, on est là en train de rigoler de leurs commentaires alors qu'ils sont suicidaires.
Bah, prenez de l'ayahuasca.
Je sais pas si c'est une bonne idée, Clément.
Oui, ou de l'ail en poudre. Ça marche.
L'ail en poudre. In a
world. No, in a world, Jack.
What do you mean, no, in a world?
It's not that kind of movie.
Oh, okay.
Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là.
Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie.
Removing the head or destroying the brain.
Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde.
On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée.
Accrochez-vous, ça va faire mal.
Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Feta Bea, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce, sans aucune objectivité. Aujourd'hui, remontons l'arbre généalogique de Yann Kounen, déjà papa de films comme Doberman, Blueberry ou encore son plus connu et déjà culte 99 francs, et attardons-nous sur son petit dernier familialement nommé Mon Cousin. Un film qui, comparé au reste de la progéniture, a l'air... différent. Enfin, ça c'est ce que nous dit son BADN que nous allons analyser dans cet épisode. Et en parlant de famille, laissez-moi vous présenter la mienne au lien, disons, très emmêlé. Ambiance cousinade et gobelet en plastique.
Il a bien grandi, le petit René.
Quelque chose, ça fait plaisir de vous voir, les cousins, là, autour de bien belles choses. D'ailleurs, vous êtes un peu mes cousins, en fait, si on est là, si j'ai bien compris, c'est
oui,
ça.
Oui, cousin, c'est le dimanche cousin.
On a, oui, c'est ça, la cousinade, on a appris à se connaître. Clémence, toi, tu es ma cousine aussi.
Oui, je suis ta cousine par alliance, parce que je suis la cousine de ton hamster que t'avais quand t'avais 12 ans, tu sais.
Ah ben, les animaux, c'est inclus dans la cousinade, les animaux?
Mais oui, parce que Pépouze, c'était le hamster de la même portée que le hamster de mon cousin Jérémy.
Oui,
il y avait un hamster à la même époque.
Oui, voilà. Celui qui avait le Solex, Jérémy.
Oui, tout à fait.
Oui, qui était DJ au Cap Canaveral, la boîte.
Pépouze, si tu nous entends au ciel.
Et au Cap d'Agde aussi.
Ouais, une petite pensée à Pépouze. Johanna, toi, t'es lié aussi à la famille.
Bah oui, tu te souviens, tante Janine.
Tante Janine.
Tu sais, il y a oncle Jérôme qui l'a quitté.
Ah, tante Janine, oui, la nympho.
Il a quitté, s'est barrée pour guérir sa nymphomanie en autarcie. Elle a commencé à faire de la sculpture sur mousse.
Oui, je me rappelle.
Du coup, Mousse, il a mis enceinte.
Oui.
Ils ont eu 3 enfants. Il y a le prêtre, il y a celui qui a inventé les ascenseurs, là.
Oui.
Et il y a la troisième, là, celle qui se drogue. Pas elle, ma mère.
Ah, c'est
elle a une cousine.
Oui.
Voilà, sa cousine qui a fait le tour du monde.
Gislaine.
Voilà. Oui, le tour du monde en ski nautique.
Oui.
Ouais, exactement.
En 80 jours.
Voilà. Elle a pêché un Eskimo et c'est comme ça que je suis
née. Ah oui, d'où le petit dernier là, qui est sorti un peu de travers. Là.
Ouais.
Didier, c'est ça.
Exactement.
Didier, il est ta famille, enfin cousin Clément. Il est ta famille aussi, Didier, je crois bien, c'est ça?
Non, moi je suis un voisin.
Ah. Ok, c'est pas la voisinade aujourd'hui, c'est la cousinade. La fête des voisins, c'est pour
plus tard. Mais tu fais quoi là?
La cousinade, on dirait pas une charcuterie.
Tu te moques en plus de nos traditions?
Vas-y, casse-toi de la...
Mets-moi une tranche de cousinade.
Allez,
casse-toi.
Allez, on lui met une tranche de cousinade. Bon, intro nulle, mais c'est pas grave. On assume. Bon, allez, on passe au sommaire. C'est dur d'être original après, hein. Toutes les semaines. Trouver des trucs.
Mettez-vous à notre place un peu, merde.
Sommaire de l'émission, alors vous l'avez compris, aujourd'hui pour cet épisode 42, il sera question de famille avec la Béa du film Mon Cousin de Yann Kounen. Son petit dernier qui s'annonce déjà étonnamment différent de ses précédents enfants qui eux ne sont pas des comédies. De quoi nous donner envie de vérifier la filiation de ce film avec son paternel en se faisant, en se faisant sa Béa. Et de parler ainsi de son cinéma bien à lui qui, comme Gaspard Noé, sent bon la poudre. Certainement car les deux hommes, amis dans la vraie vie, s'inspirent et se référencent l'un et l'autre depuis leur début de carrière derrière la caméra. Et le hasard du calendrier nous permet ce duo des familles aujourd'hui car il sera question de Gaspard Noé en deuxième partie de l'épisode avec le match retour de Lux Aeterna, sa dernière expérience épileptique sur fond de chasse aux sorcières et de cinéma chaos. Chaos, justement, ce chaos nous a-t-il mis chaos ? Nos yeux ont-ils survécu aux terribles 300 BPM de son et de couleur ? Tour de force, supercherie, on vous dira tout. Et spoiler alerte, ne vous inquiétez pas, nous n'avons
aucun problème de santé.
Aucune séquelle. Bon, ça ce sera pour la deuxième partie d'émission. C'était le sommaire de cet épisode 42 qu'on va tout de suite lancer avec la BA de Mon Cousin de Yann Kounen. Vous êtes prêts ?
Ah ouais.
La famille
c'est parti.
On y va. Allez,
vas-y. Vas-y, allume la télé.
Les gobelets en plastique. Mais Ghislaine, mets la télé.
On regarde la BA, tiens.
On va regarder la bande annonce.
Tu sais, il a fait un film, notre cousin.
La bande annonce du dimanche.
Cousin ! Ah, tu m'as manqué.
Je le vois jamais. Quand je le vois, tu vois ce qui m'arrive. Je pèse 1 milliard, je dirige 45 filiales, j'emploie 9000 personnes et je suis dans la main d'un fou. Mon putain de cousin ! Si ce malade ne signe pas ce pacte très vite, on est mort.
Il faut juste signer là dans la vie de casse.
Il a signé ?
Non. Qu'est-ce qu'il veut exactement ?
Il veut m'aider. Adrien, je monte devant.
Ah non, ouais. Je suis ton chauffeur, je suis pas ton cousin là.
Il veut être moi tout le temps, à ma bagnole, à la maison, partout. Il veut être moi, voilà, tu comprends ?
J'ai les armes ! Toi, laisse-moi !
Mais je m'en fous qu'il m'aime ! Je veux qu'il signe !
Calme-toi ! Depuis qu'il est là, tout se casse la gueule. Les ascenseurs, les actions, les hélicoptères.
Marre des conneries ! Marre des dingues !
Votre cousin est très sensible. Il peut changer d'humeur d'une seconde à l'autre.
J'ai plus parlé en 24 heures à toute ton équipe qu'à toi en 35 ans. T'étais pas comme ça.
Les gens, ils ont besoin qu'on leur montre qu'on les aime. Y'a que toi, toi, tes actions, ton apéritif à la con, là. On n'est pas des cailloux, Pierre. Ça bouge, ça saigne ou ça croule.
Qu'est-ce qui se passe ?
On vient d'entrer en collision avec la Volga sauvage.
Je le savais.
Ah là là. Que d'événements.
Un vol d'oie sauvage.
Ça promet de l'action. Mon cousin de Yann Kounen, qui est très surprenant du coup, hein, dans cette bande-annonce, on ne retrouve pas vraiment les aspects de son cinéma. On aura toute l'occasion d'en parler. Mais avant de lancer sa BA et de se la démonter ensemble, nous allons faire appel à notre cousin virtuel qui, lui, s'appelle El Calculator.
C'est moi. Salut les cousins.
Salut
cousin.
Pas fait original, hein,
cousin 2.0.
Dans Mon Cousin, il y a 51 plans en 1 minute 27, soit 0,5 plans par seconde.
Il y a beaucoup de choses dans ton cousin.
C'est drôle.
Il doit être encombré.
Après le record du plus petit nombre de plans de Lux Aeterna, on revient à la normale.
C'est-à-dire
0,5 plans par seconde. Tu écoutes pas.
Ah, pardon. Je croyais que tu étais déjà sur ta nouvelle fonctionnalité.
Oh, il est vexé. Voulez-vous la découvrir ?
Ta nouvelle fonctionnalité, oui. Qui est plus si nouvelle que ça, hein, au bout de quelques épisodes. Hein.
Le film dure 1h45 minutes et la BA contient 1 minute 18 d'images. Grâce à ma nouvelle fonctionnalité, j'ai pu déterminer que la BA révèle 1,2% du film.
Ouh, c'est beaucoup.
Non, c'est moins.
C'est la moyenne.
C'est moins.
Tu suis rien du tout.
Je sais pas où nous mène cette fonctionnalité.
Je sais pas. On n'a aucun repère avec cette fonctionnalité.
C'est toujours 1,2 ou 1,
c'est nul. En fait, tout dépend du temps de la BA, quoi. Écoute, peut-être qu'on réussira à faire un truc. Ça sert, elle sert à quoi, ta fonctionnalité, le calculateur ?
Elle sert à faire des statistiques.
Ok, d'accord.
L'amour des chiffres.
L'amour des chiffres.
À part ça,
pourquoi tu répètes ce que je dis ?
J'ai trouvé ça juste.
Et t'en penses quoi de mon cousin, le calculateur ?
Ça m'a touché, car moi aussi, j'ai un cousin.
Ah ouais ?
Ah bon, c'est qui ?
Elle l'est à tort. Il travaille dans les bibliothèques. Il compte les lettres dans les livres.
Ah, il doit avoir plus de boulot que toi, du coup.
Il est très occupé.
Bah oui, tu m'étonnes.
C'est fascinant. Et du coup, il arrive à calculer le pourcentage dans une quatrième de couverture de... par rapport
non,
au nombre de lettres, par rapport au nombre de pages du livre.
Non, juste les lettres.
Ok.
Et vous voyez souvent, vous faites des cousinades entre ordi.
Non, c'est être trop un geek.
Ok, d'accord.
C'est trop un intello.
Merci El Calculator pour toutes ces précisions.
De rien,
bien
Romain.
Rocambolesque. Ça
il avait
l'air
bonne humeur aujourd'hui.
Ouais, oui. C'est rare. C'est rare. Allez, éteins-toi.
Pfiou.
Merci.
Je rappelle qu'il est en veille.
Alors, on va passer à la BA de mon cousin. Mais avant ça aussi, j'aimerais qu'on parle un peu de Yann Kounen. Est-ce que vous connaissez un peu Yann Kounen? C'est un nom que vous avez déjà entendu, je suis sûr.
Oui.
Oh ouais, ça m'avait pensé au Queen Amman.
C'est marrant parce que j'ai toujours cru qu'il était breton, moi, Yann Kounen.
Pas du tout, il est d'origine néerlandaise.
Justement, à cause de ça, à cause du truc de.
C'est
de
soit
de
un breton, soit un ninja.
C'est pas du tout. Pas du tout un breton. J'ai toujours pensé que c'était un breton.
Il
avant
est né
de...
à Utrecht.
Puis un jour, j'ai ouvert Wikipédia et je me suis rendu compte que non. Alors, on le relie aussi vachement à Gaspard Noé, hein, ce qui nous permet d'avoir ce duo aujourd'hui un peu exceptionnel, d'avoir les deux copains dans la même émission. C'est plutôt sympa, ça.
C'est bien conçu.
On le relie un peu à Gaspard Noé dans son cinéma, surtout dans sa technique. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Alors,
il a des envolées de caméra qui sont particulières. Il
aime des gimmicks,
Il aime bien tordre les plans, faire des énormes travelling à la steadicam.
Des grosses accélérations dans l'image.
Ouais, ou pas mal de ralentis aussi. Et dans le côté Gaspard Noé, on va dire que c'est surtout violence, sexe, drogue et rock'n'roll. C'est un peu aussi ce qui caractérise son cinéma. Alors, en filmographie, qu'est-ce que vous avez vu un peu de ces films quand même? À part...
99 francs, je pense qu'on l'a tous vu autour de la table. Et hier, on a regardé Blueberry, l'expérience secrète, qui est un de ces films un peu culte pour quelques gens qui l'ont vu, mais qui n'a pas du tout marché à l'époque, alors qu'il avait quand même un assez gros budget. Et qui est en gros une adaptation de la BD Blueberry de Moebius.
Blueberry Fine.
Et pas du tout. Et qui est donc un espèce de western métaphysique avec de la prise d'ayahuasca, parce qu'il faut savoir que Yann Kounen est fasciné par le chamanisme indien et qu'il a fait plusieurs expériences de prise d'ayahuasca, qui est donc une plante psychotrope hallucinogène qui permet de guérir.
Qu'on prend suite à un rituel.
Voilà, et c'est pas du tout comme les champis et tout, hein. C'est un truc très très, très 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 puissant et tu peux faire vraiment des visions hyper bad trip et tout. Et donc lui, il est fasciné par ça, il a écrit un livre dessus, il a fait une expérience en réalité virtuelle dessus, et donc il a utilisé un peu la figure de Blueberry, du western et tout ça, pour dire qu'il avait été élevé par des Indiens, ce qui n'est pas le cas dans la BD, et qu'il prenait de l'ayahuasca et qu'à la fin, ils se battent en esprit avec le méchant.
Ouais, c'est...
Et c'est une assez belle séquence. Après, le film est quand même
chiant, un
bourré
peu.
De défauts. Ouais, la partie western
ne sert à rien.
Je la trouve pas très réussie, mais tout ce qui est Vincent Cassel qui fait un trip, ouais, j'étais assez fasciné, quoi.
Et on l'a découvert juste avant, ça c'était son deuxième film en 2004, et 7 ans plus tôt, il avait fait Doberman, qui l'a fait un peu connaître.
Moi je l'avais vu quand j'étais ado, et ce que j'en retiens surtout, c'est Romain Duris, qui est complètement fou dedans, qui est un peu un alter ego de Brad Pitt dans Snatch, je trouve. Et la photo aussi, le côté un peu crade, un peu crado, un peu sombre.
C'est marrant que tu relis Brad Pitt à Yann Kounen, parce que je sais pas si vous allez être d'accord avec
moi. Parce qu'ils sont
cousins ? Non, ils sont pas cousins. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais pour moi, 99 francs, c'est un peu notre Fight Club à nous. Je sais pas si ça vous parle comme ça. Moi, je le sens comme ça. C'est un film qui est devenu culte parce qu'il dénonce la société à travers la pub, alors que...
C'est vrai.
Bon, après, c'est Beck BD, hein. C'est un livre de Beck BD de base.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Mais Fight Club est une adaptation de bouquin aussi.
Ouais,
c'est ça. Bah voilà, tout est relié.
Peut-être, ça doit être une grande inspiration, Fincher aussi, mais j'ai l'impression que ces deux films se répondent l'un et l'autre, hein, chacun de leur côté, pour ceux qu'ils dénoncent.
C'est un peu devenu culte après aussi. Je ne sais pas si en salle ça a vraiment énormément marché, mais après, c'est un film qui est devenu...
C'est devenu
un peu,
super culte, et puis ça a un peu propulsé Jean Dujardin. Jardin, oui. À ce moment-là, c'était une des premières fois où on le voyait dans un film autre que rigolo, comique, quoi.
Et toi, tu l'as rapproché de Gaspard Noé, et moi je le rapprocherais encore plus Yann Kounen du troisième larron, qui est Albert Dupontel, parce que je trouve que son cinéma ressemble beaucoup au cinéma de Dupontel des débuts, moins avec Au revoir là-haut, mais tout ce qui est Enfermé dehors et tout, Bernie. Il y a ce côté personnage loufoque, des cadrages complètement excentriques, un truc à la Terry Gilliam et tout. C'est un peu cette veine-là de réalisateur, et c'est vrai qu'en France c'est cool parce qu'on n'en a pas beaucoup, quoi.
Et un côté un peu social border.
Des personnages fous un peu ou en décrochage, quoi.
Ouais, c'est limite un univers punk à chaque fois, quoi. C'est... Son dernier film, par exemple, c'est bizarre aussi parce qu'il y avait déjà un changement, c'est Coco Chanel et Igor Stravinsky en 2009 et il n'a plus rien fait depuis en long métrage. Et il nous revient 11 ans après avec Mon Cousin. Et entre-temps, il s'était occupé avec des expériences de réalité virtuelle, pas mal de courts-métrages aussi.
Il a fait Cauchemar en cuisine.
Ah bon ?
Bah, je trouve qu'il ressemble à Philippe Etchebest, en fait.
C'est vrai. Il est beaucoup plus filifort.
Moi, je la prends plus au sérieux. Non, mais on l'a vu aussi dans un... Il a fait un segment du film Les Infidèles, hein, toujours avec Jean Dujardin, là, encore. Il a fait un segment de ce film-là qui avait été coupé au montage pour la sortie en salle parce que bah, trop space. Hein, on le voit, du coup, en sortie vidéo, le segment en question. Et c'est vrai qu'il est super space et je comprends peut-être pourquoi il l'avait coupé. Ça pouvait choquer. Et c'est là qu'on retrouve toute l'essence du cinéma de Yann Kounen. Chose qui est étonnante, c'est ce nouveau film Mon Cousin, et on l'attendait pas forcément là. Alors, on va en parler tout au long de la BA, mais ouvrons d'abord ce sujet-là. La BA, elle s'ouvre sur quoi ? Elle s'ouvre sur une embrassade des familles. Cousin, ça fait plaisir de te voir. Qui est qui à ce moment-là ?
François Damiens est le cousin de Vincent Lindon.
Déjà improbable.
Et l'inverse est vrai aussi. C'est ça qui est fort.
Donc là, directement, les liens sont lancés. Lindon et Damien sont cousins. C'est pas de chance, parce qu'apparemment, une petite musique de suspense se lance et ça va créer un énorme petit bordel. Mais quoi ?
On sait pas exactement. Vincent Lindon dit « Je brasse des milliards, j'emploie des milliers de gens. » On comprend que c'est un PDG d'une grande entreprise. Et je sais plus, c'est quoi qu'il dit ?« Ma vie est entre les mains de ce fou qui est mon cousin. »
Je vais te le dire directement, après l'avoir passé dans le traducteur... anti-articulation là.
Parce que
franchement, en plus Vincent Lindon c'est un expert pour ça, il articule très peu. J'ai compris, je pèse un milliard, je dirige 45 filiales, j'emploie 9000 personnes et je suis dans la main d'un fou, mon putain de cousin. Si ce malade signe pas ce pacte, très vite on est mort.
Mais alors quel pacte?
Ouais, c'est trop bizarre comment il parle, parce qu'il parle de pacte, il dit on est mort, et puis le ton qu'il a, moi au début je croyais que c'était un truc genre trop tendu, la mafia ou quoi. Ça a l'air d'être un thriller au début.
Une petite note de violon mononote comme ça qui dure.
Ah ouais, moi dans ma tête, je me suis dit, c'est encore une histoire de famille et d'héritage.
Là, il a signé un pacte, c'est chelou.
Ben, peut-être un truc d'héritage, où il est obligé de dealer avec son cousin pour pouvoir garder des biens. Ou un
des
truc
parts.
Comme ça.
Ou alors son cousin a une part dans l'entreprise de Vincent Lindon et il ne le savait pas. Je sais pas
qui l'empêche d'avancer. Donc, du coup, il rappelle.
De toute façon, c'est un chef d'entreprise, Vincent Lindon, on est d'accord.
C'est un PDG.
Et d'entreprise de quoi ? On ne sait pas, mais.
Et il ne signe pas ce pacte. Et c'est là que le film apparemment commence. Le suspense s'arrête. Hein. C'était simplement une entourlouperie. Je ne sais pas si ça se dit une entourloupe. Tout simplement. C'était une entourloupe parce que la musique Whatever You Want de Status Quo vient casser l'ambiance. Et heureusement, nous sommes dans une comédie et non pas dans un thriller, film à suspense. On a eu chaud. Hein.
J'aime bien cette BO de la BA.
Et ça part et ça devient tout mignon, tout gentil. Le cousin qui veut aider.
Et il y a un plan sur François Damiens où il a l'air pas sympa au début, où on le voit cracher sa fumée là.
Oui, il lui vapote à la gueule, il fume.
C'est bizarre en fait,
parce
que enfin ça c'est encore peut-être quand on est dans la phase un peu suspense, c'est que Vincent Lindon en parle, il y a un insert d'un plan de François Damiens qui balance sa fumée dans le visage de quelqu'un.
À ce moment-là,
et tu dis putain, il a l'air trop vénère et tout. Et en fait non.
Mais tu vois que tous les opposent en fait. Parce que lui, il a l'air d'être Vincent Lindon, il a l'air d'être quand même bien placé, d'être un grand patron, qu'il a beaucoup de gens à diriger. Et t'as le cousin, qui lui, il a tout simplement l'air d'être quelqu'un de normal.
Bah, de très simple, et d'être un peu le cousin, un peu relou, mais qu'on aime bien. Quoi.
Et ça a l'air d'être un chauffeur de VTC, parce que là, il l'invite à monter en voiture et il lui dit « Non, je suis pas ton cousin, là, je suis ton chauffeur ».
Mais j'ai pas compris.
J'avoue pas avoir compris cette
moi
scène.
Je sais pas s'il est VTC, j'ai l'impression qu'ils doivent aller à un endroit contraint d'y aller ensemble et que Damien se décide de conduire quoi.
Parce que le plan d'après dans la BA, Vincent Lindon est en train de conduire et Damien est passager. Donc j'ai pas compris.
Ouais, mais si
c'est pas au même moment.
Oui, mais non, si tu fais gaffe, tout ce début de BA joue sur des trucs qui sont dits et à l'image on montre le contraire.
C'est vrai.
J'ai l'impression que c'est un effet comique.
Je comprends pas pourquoi il dit pas je suis pas ton chauffeur, je suis ton cousin.
Oui, voilà, c'est ça. Il dit
l'inverse. Il dit je suis pas ton cousin, je suis ton chauffeur. Je comprends pas.
Je sais pas. La musique se lance et puis du coup on est dans une belle comédie qui sourit et on se rend compte qu'en fait ça va être le cousin Colin qui va suivre partout Vincent Lindon et d'ailleurs qui veut être Vincent Lindon, c'est ce qu'il dit lui-même.
Il veut être moi.
Il va être moi, j'arrive pas à m'en détacher. On a l'impression d'être dans une comédie de Weber là, parce que on retrouve deux archétypes du cinéma de Weber, hein, le con et le pas con en fait, mais celui qui a réussi.
Le sérieux, quoi.
Et c'est peut-être ce qui a inspiré aussi Yann Kounen, parce que il l'a dit en interview. Il fait ce qui m'a séduit en fait dans l'idée de ce film, c'est qu'il contient les fondements de ce qu'est pour moi une comédie entre guillemets à la française, une histoire originale bâtie autour de deux types qui ne se supportent pas, mais qui doivent être ensemble, joués par deux grands acteurs très différents l'un de l'autre. C'est intéressant, hein, intéressant ou pas, je sais pas. Est-ce que c'est très original?
En tout cas, je sais que quand j'ai vu Damien Célindon ensemble, je me suis dit what the fuck. Donc oui, ça, pour moi, c'est intéressant de confronter ces deux comédiens.
C'est clair qu'ils viennent pas du tout des mêmes univers de comédiens, quoi.
Et il y en a un qui vient, en tant que personnage, qui vient pas du tout du même monde, parce qu'ils prennent des jets privés. Donc il en est là, hein, Vincent Lindon. C'est un mec qui prend des jets privés. On a une petite scène dans le jet privé où ça a l'air d'être complètement la panique. Et on instaure le fait que, en fait, toute cette histoire de voyage ensemble entre cousins, ça va être juste Vincent Lindon qui va essayer de convaincre François Damien de signer en fait.
Il est malin, hein. Il s'est fait payer des vacances par son cousin.
C'est peut-être pour ça. Je vais pas signer. Du coup, on va faire le tour du monde avant. Motive-moi. La pancarte du casque qui s'affiche dans une pas très originale police de comédie française.
Garamond.
Dégradé en bleu
et
en jaune.
On retrouve le bleu et jaune, ouais.
Bleu jaune. C'est sur toutes les affiches de comédie française, c'est le bleu, le jaune. Hein. Je sais pas, ils sont aux couleurs de Ikea. Peut-être que ça attire mieux. J'en sais rien. Vincent Lindon, François Damiens. Et on introduit Alix Poisson. Je ne sais pas si vous voyez cette actrice,
tout
Alix Poisson.
Fait. Qui a l'air de jouer son assistante ou sa collègue de travail à Vincent Lindon.
Alix Poisson, en fait, qui va donner un dialogue très pratique là, à ce moment-là dans la BA, parce qu'elle va annoncer carrément tout ce qui nous attend, tout simplement. Elle annonce les gags du film. Depuis qu'il est là, il y a tout qui se casse la gueule. Les ascenseurs, du coup, on voit Lindon dans un ascenseur qui a l'air très peiné. Les actions qui se cassent la gueule, donc pareil, hein, des petites images d'illustration. Les hélicoptères... Et là, qui me raconte cette scène.
Ah non, attends, il y a un truc qu'elle dit pas parce que, en fait, c'est pas montré dans la BA, mais moi je sais que c'est dans le film parce que j'ai vu un extrait spécial. C'est qu'à un moment, ils vont à un apéro soirée dansante et ils sont sur le dance floor et en fait, il fait tomber tout le monde et alors ils essayent de danser le Madison en fait, tu vois. C'est nul, c'est totalement nul comme manière de placer le Madison.
C'est toi qui avais le Madison. Non, il fait ça, il y a vraiment un extrait pour ça.
Oui, tu verras. Tu verras. Okay. Quelqu'un qui rate le Madison, c'est
tu
quand même.
Tu es donc parti tricher. Mais voilà, mais en fait, oui, c'est Pierre Richard, quoi, en fait, hein, de François Damiens, quoi. Et là, il y a un autre truc pire que le Madison, c'est les hélicoptères. Donc, est-ce que c'est lui qui conduit l'hélicoptère? Je comprends rien.
Non, ils en prennent un, sûrement, pour aller d'un point A à un point B. Et quand l'hélicoptère est en train d'atterrir, il projette, c'est quoi, des
oiseaux.
Pousses de vache.
Ah ouais,
c'est des oiseaux.
À la gueule de tout le monde.
Qui rentrent dans les hélices et qui atterrissent dans la gueule d'Alix Poisson.
Mais pourquoi? Pourquoi les oiseaux vont-ils dans les pales d'hélicoptère et pourquoi plus tard dans la BA, il y a aussi des oiseaux autour de l'avion?
Je sais pas, ils vont aller de situation rocambolesque en situation rocambolesque. Je pensais pas utiliser un jour ce mot.
Mais... Surtout deux fois. Peut-être que le cousin est ornithologue.
Lindon, à un moment, on le voit là dans la BA, il est en train de galérer là, à essayer de démarrer un Solex au milieu d'une route de campagne. Alors comment ils ont fini là?
Oh, c'est encore Ténet, il va y avoir plein de moyens, oui, de transport.
Et c'est
le
surtout...
Solex, l'avion, l'hélicoptère.
Ça paraît très très cocasse, toutes ces petites péripéties, là, ces petites mésaventures entre cousins. La petite guitare qui se lance avec la petite chanson mélo, ouais, qui accompagne toujours un peu ce genre de BA, ouais, film de comédie française de famille, quoi.
Oui, on entre dans la phase émotion de la BA.
Ouais, et à ce moment-là, le personnage de François Damiens disparaît presque de la BA, on ne le voit plus.
C'est vrai, parce qu'on vient dans l'introspection de Lindon, à qui on demande de faire preuve d'amour et d'oublier son travail, en fait. C'est
théorie.
Pas...
Ah. Est-ce qu'il n'arrive pas un drame au cousin au milieu du film?
Non.
Qui fait qu'il ne peut définitivement pas signer ce pacte.
Genre, il se fait couper les mains. Je peux plus tenir le stylo.
Oh, il meurt.
En tout cas, il lui arrive un truc au cousin, c'est qu'il est malade. On l'apprend d'un appel téléphonique. Alors, qui est-ce? Un médecin? Un copain? Un psy? J'en sais rien.
Où, cette machina,
pas malade, il est très sensible. C'est pas une maladie.
Non, il peut changer d'humeur d'une seconde à l'autre.
Mais il est ultra sensible.
Il est sensible. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on le voit étreindre un arbre pour prendre le chi de l'arbre.
Mais moi, je pense que psychologiquement, il a un problème.
Ah non, moi, je pense pas.
Ah, moi, j'ai eu l'impression, la même impression que Romain, mais c'est parce que le début de la bande-annonce, comme on a tout le temps le point de vue de Vincent Lindon qui parle en mal de son cousin, j'ai eu l'impression que le cousin avait un problème mental.
Pour moi, c'est Vincent Lindon qui a un problème, qui est névrosé. Ouais.
On est bien d'accord.
Ça, clairement, mais c'est pas une maladie, la névrose.
Eh bien... Bienvenue dans Psychologie Podcast.
Psychast. Le magazine de la psychologie.
Non, mais oui, c'est un être tout gentil.
Bah, il fait des bisous à des arbres. Il peut être que gentil, effectivement, un peu maladroit, un peu con, mais gentil. Voilà, contrairement à Vincent Lindon, là, qui lui est un gros chiant, qui n'aime pas aimer. Hein. Là, on ouvre les clichés dans la BR, on ouvre les clichés de famille hein, dans les films français. On a l'opposition des classes, hein, clairement, entre les deux. Donc, déjà, bon, premier cliché. Et on a Damien hein, qui va se rendre compte, qui va essayer d'ouvrir le cœur de son cousin, hein, certainement involontairement. Et puis, du coup, il va laisser rentrer un peu d'amour, hein, ce Vincent Lindon.
Et on ouvre aussi les clichés parce que Vincent Lindon, il reconstitue une photo.
Oui.
Donc, il ouvre les clichés.
Et alors là, moi, j'ai vu que c'était sur ce plan. Il reconstitue la photo par-dessus un contrat.
Oui, bah c'est certainement.
Derrière, il y a
pacte.
Une feuille écrite entre eux et.
Ouais, ouais, c'est entre eux. Entre eux et,
mais quelle est cette photo?
C'est les deux frères gamins qui sont habillés en indien.
Voilà. Les deux cousins?
Ouais, je pense. Hein, je pense que c'est les deux cousins. En plus, il a dû la déchirer, tu sais, genre en mode cette photo ne représente plus rien pour moi. Et puis plus tard, il la recompose, comme on voit dans tous les films américains ou français qui abordent ce genre de choses dans leurs films de comédie. Quoi.
Mais il l'a bien déchiré en six petits morceaux, bien réguliers, ce qui est impossible
très,
à faire sur une photo.
Très régulier, parce qu'il aime aussi les puzzles. C'est peut-être ça. Donc, les regrets, les remords qui viennent accompagner Vincent Lindon à ce moment-là. Qui...
Remords sur un flamant rose.
Sur un flamant rose, alors voilà.
À la plage aussi.
Hein, deux poids, deux ambiances. Hein. Là, vraiment, tu peux quand même regretter pas mal de choses. Mais si t'as une piscine, un flamant rose et la maison qui va avec, c'est peut-être moins dur quand même. Hein,
ne crois pas si non,
donc on est encore
ça.
Dans le cliché et pour vous dire j'ai vraiment l'impression que c'est un remake de La Vie est Belle de Capra en fait parce que pour moi c'est clairement le personnage de La Vie est Belle quoi c'est même Scrooge vous voyez Scrooge vous
oui.
connaissez le conte de Scrooge
et
là,
Scrooge.
Va genre qui est trop dans son travail qui est trop gripsou qui est trop qui a beaucoup de défauts en fait de l'homme businessman qui du coup là va apprendre à connaître
l'humanité.
Les vraies valeurs
vous,
de la famille.
Vous savez, à quoi ça me fait penser à Rain Man aussi.
Oui, oui, oui.
Ah, yes, ouais, c'est vrai.
Et donc, que de référence.
Que de référence. Et en tout cas, on le comprend avec l'engueulade avec sa femme, là, à ce moment-là, de la BA. Donc, il est en plein dans son temps de réflexion. Ouais, tu penses qu'à ton apéritif, tu penses qu'à ton boulot.
Tu nous emmerdes.
Mais
son apéritif, ça veut dire qu'il y aura une grosse scène d'apéritif. Mais tu
oui,
avais
c'est
raison.
L'apéritif dansant avec le ouais,
avec
Madison.
Le et non, mais on reconnaît Pascale Arbillot, qui est la comédienne qui était dans Les Petits Mouchoirs. Bon, et nous finirons ensemble. Ouais. Et elle criait déjà sur François Cluzet, et là, elle crie sur Vincent Lindon.
Mais d'ailleurs, le bureau de Vincent Lindon ressemble trop au bureau de François Cluzet dans Intouchable avec les deux fenêtres et le tableau.
Qui est le chef des taux?
Ils doivent avoir la même fortune. Elle lui crie dessus, on n'est pas des cailloux, Pierre. Ça m'a fait très rire.
Ouais.
On n'est pas des pierres, cailloux. Vous pourriez inverser. Bon. Si ça bouge, ça saigne et ça coule.
Ouais. Il faut que ça bouge. Non, elle dit,
qui dit ça?
Faut que ça bouge, que ça saigne et ça coule.
Ouais, voilà, genre
tu voudrais vivre, toi, résigné. Elle parle de quoi? Du corps humain?
Elle parle des gens, parce que Vincent Cassel, c'est un mec qui veut enfermer
Lindon.
Tout le monde. Lindon, pas Cassel. Ils sont très sympas tous les deux. Vincent Lindon, il veut enfermer des gens dans des cases, alors que non, ça bouge, tu vois, les choses sont mouvantes.
Bref, on a la petite musique qui accompagne tout ça. Vincent Lindon, on sent que ce film va le laisser tout chose au final.
Il fait du segway.
Ouais,
c'est comme ça que ça s'appelle.
Ouais, skateboard électrique.
En plus, il fait du segway dans une espèce de grande pièce vide avec plein de.
Donc tu vois, c'est
de
typiquement l'image du mec.
Ou de cadavre, je ne sais pas.
Ouais,
qui prend son envol.
Bah ouais, qui détestait tout ce qu'il fait en fait et puis qui va apprendre à aimer. Juste le kiff. La pancarte du film, elle apparaît. Bon cousin. Le titre. La blague de fin de BA, forcément, qui vient illustrer aussi là, hein, cette comédie. Qui me raconte cette dernière petite blague? Nous refait
ben,
référence.
Il y a
à...
le mec qui loue son avion dans Ténet, qui se fait encore défoncer son avion. Je pense qu'il en peut plus, le mec.
Non, mais là, c'est un moment purement Yann Kounen pour le coup. C'est qu'on ne s'attendrait pas forcément dans une comédie française à avoir un crash d'avion parce que ça coûte cher et que ceci, cela. Et là, typiquement, bah, le mec, il te met un crash d'avion avec des oiseaux qui se prennent dans le moteur et François Damiens qui dit Je le savais.
Et ce sont les derniers mots de cette BA pour ce film qui sortira le 30 septembre. Et voilà. La BA de Mon Cousin de Yann Kounen. Allez, tout de suite, est-ce que vous avez envie de le voir, ce film, Clément?
Ouais, Moi, je suis hypé. Pourtant, c'est pas trop mon délire, mais il y a un truc qui me rattache au film de Francis Weber, Gérard Rouri, etc. Donc, la chèvre, ce genre de truc, ça peut être un bon délire. Et en même temps, je sens quand même la touch de Kounen dans la réal, en fait. Pas dans le scénario, puisqu'il a pris le projet en cours de route. Mais dans la réal, avec ses gros plans, cette façon de filmer les personnages de manière très serrée. J'aime bien la photo aussi qui est faite par Guillaume Schiffman, qui est le chef-op habituel de Azanavicius. Et voilà, il y a un truc qui me plaît, et j'espère que c'est un peu un attrape-couillon, dans le sens où c'est un film pour amener les gens en salle, pour dire regardez, j'ai fait une comédie familiale, et qu'en fait il y a une profondeur derrière, quelque chose de touchant.
Peut-être. Johanna, as-tu envie de voir ce film avec cette BA?
Non, très honnêtement non, ça me hype pas du tout. Après, pour le duo Lindon-Damiens, pourquoi pas, mais très honnêtement, c'est pas ma cam.
Ouais, ça t'a pas... Je te comprends. Clémence?
Comme Johanna, franchement, j'irais pas le voir si je voyais la BA comme ça au ciné. Je me dirais, ah ouais, bien, ok.
Suivant.
Mais bon, on peut être surpris, hein. Vous verrez, je vais vous faire part des commentaires des gens. Il y a un truc qui se passe, c'est qu'il y a plein de gens qui l'ont vu en avant-première et qui ont adoré.
Espérons qu'on soit autant surpris.
Et toi, Romain, qu'est-ce que tu en penses? Ça te donne envie?
Alors, je suis mitigé, en fait. En règle générale, je ne vais pas vers ce genre de film parce que j'y reconnais un peu simplement trop de clichés et ça ne me vend pas un film très, très original. Mais là, c'est Yann Kounen qu'on n'a pas vu depuis plus de 10 ans.
Ouais, mais ça peut être drôle.
Ah, mais j'espère que ce sera drôle. Moi, franchement, j'ai juste envie de rigoler. J'ai vraiment juste envie de rigoler. Si en plus, il nous fait des petites envolées de caméra, des petits plans séquences, des petits trucs qu'on aime bien à la Yann Kounen, ou que ce soit un peu acidulé, mais pas trop, parce qu'attention, moi, parfois, quand ça dépasse Yann Kounen, j'ai un peu de mal à digérer. Son segment dans Les Infidèles, j'ai pas pu supporter. J'ai envie de rigoler. Et puis, pourquoi pas peut-être essayer d'insuffler un peu de cinéma dans tout ça, tu vois. Pas juste faire ces énormes comédies françaises qu'on a pu voir.
En plan fixe.
Cobu, Toto et compagnie, là, qui puent du cul. Ça me donne envie parce que je suis curieux, mais objectivement parlant, le format de la BA, comment c'est monté, est-ce que ça nous vend? Pas top du tout. Je trouve ça très, très cliché, quoi.
T'en attends rien, voilà.
J'ai l'impression que là, pour le coup, il y a un renouveau.
Oui, et puis il a pris de l'expérience. Hein.
Oui, et puis je pense que c'est pas anodin aussi qu'il soit passé par la VR. Je pense que ça change quand même quelque chose dans ta perception et ta façon de filmer. Ça peut être intéressant, ça.
Et il le vend comme un feel-good movie, ce film.
Oui, un buddy movie aussi.
Buddy movie, feel-good movie, un buddy feel-good movie. Et c'est là ma question, en fait. C'est, est-ce que vous pensez pas que cet énorme gap entre son cinéma un peu plus sale, entre guillemets, et là, cette comédie qui a l'air très propre, très lisse même, risque de lui porter défaut?
Souvent, on est content quand un réalisateur de comédie s'essaye à autre chose. On dit oui, il prend des risques. Et là, je trouve que c'est une belle prise de risque aussi de faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on le connaissait dans un style très marqué. Et là, pourquoi pas faire une comédie, sachant que c'est un exercice très, très, très compliqué.
C'est casse-gueule, ouais.
C'est une des choses les plus difficiles à faire.
De faire rire.
De faire rire et d'avoir le rythme adéquat pour faire rire au bon moment.
C'est exactement ce qu'il a dit dans une interview dans Illimité, où justement on lui demande qu'est-ce qu'il vient faire sur ce film, en gros. Il dit « J'ai toujours aimé tenter des trucs, sortir de ma zone de confort. Dans cette industrie, parfois, quelqu'un vous aborde pour vous proposer un sujet a priori loin de vous, mais qui se met à résonner dans votre fort intérieur. C'est ce qui s'est passé pour mon cousin. Je n'étais pas fou du titre, mais par contre, j'étais très excité par le casting Lindon et Damiens. » Et après, on lui demande pourquoi, le fait qu'il y ait eu un gap de 10 ans, est-ce que ça a joué dans sa décision? Il dit « Ça a joué forcément. Il y a 10 ans, je n'aurais sûrement pas voulu diriger le film et j'aurais eu tort. Là, la situation m'a poussé à bien étudier la proposition. Ça fait 10 ans que je n'arrive pas à monter mes projets et j'en étais arrivé à la conclusion que le cinéma était terminé pour moi. »
Ah ouais, carrément.
Ouais. Je leur ai donc proposé de ramener un peu ce script dans mon monde en le retravaillant un peu. Tout le monde a accepté et on a foncé. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas accepté le job par dépit mais par goût du challenge.
Mais c'est bien, c'est positif. Surtout qu'il a l'air d'avoir du recul sur ce qu'est aujourd'hui la comédie sur le marché. Donc ce que tu dis là, ça laisse penser qu'il va quand même y avoir sa patte et qu'il va pas le faire comme tout le monde.
On voit aussi dans le choix de son chef-op, c'est que là, comme disait Clément, les plans quand même dans la bande-annonce et la lumière, c'est pas juste quelque chose de plat et de tout blanc comme on peut voir souvent dans les bandes-annonces de comédies françaises.
Ça, c'est ce que nous, on pense du film avec sa BA, mais qu'en pensent les gens sur les internets?
Je sais pas.
tu vas nous le dire.
Il y a un moyen de savoir.
Moi, je ne dirai rien, mais en tout cas, Clémence, avec la rubrique du comme si comme ça, va tout nous raconter.
Comme si, comme ça, comme si, comme si, comme ça.
Les commentaires des internets. comme ci, comme ci, comme ça.
Les commentaires des internets.
Le comme ci, comme ça qui nous permet de référencer les commentaires les plus croustillants, les plus sympathiques autour du film Mon Cousin. Et ces commentaires, c'est Clémence qui nous les a retrouvés sur les internets.
Oui, alors j'étais bien surprise parce que je sais pas si ce film a été repoussé ou quoi, ou alors il y a eu beaucoup d'avant-premières prévues, plein de gens l'ont déjà vu en fait.
Ah.
Et beaucoup, beaucoup de commentaires de gens disaient « Ah ouais, je l'ai vu en avant-première là, là, dans telle ville, dans tel petit cinéma du coin, c'est super. » Péter. Voilà.
Bah, donc... ouais. Bah, c'est bien les gars.
Alors notamment d'ailleurs, et j'ai vu même un commentaire de Charlotte Rossignol qui dit « J'irai le voir en avant-première à Sainte-Eulalie le 5 septembre s'il reste encore des places, ce que j'espère de tout cœur. La bande-annonce est très accrocheuse et donne vraiment envie d'y aller. Signé chat, Monteil, Rossignol, cœur. »
Ah, c'est encore une meuf d'Emmanuel Mouret, putain, génial. J'en peux plus.
Elle a mis un cœur quand même.
Il y a Thierry Condamin qui a réagi comme moi, qui a dit « Tout le monde l'a déjà vu en avant-première, c'est drôle
!» C'est tapé des barres avec Gilbert.
Tu sais, qu'elle est trop vexée, genre quoi, j'étais pas invitée.
À la machine à café, on en a ri, on en a ri.
Bon, sinon, il y a les gens qui vont un peu de leur théorie sur le film comme nous. Alors, il y a Chapeau Chapi 86
Chapeau
qui dit...
Chapi.
Pas d'abord. 86.
Je vous autorise pas à blaguer sur les pseudos.
Si.
Peu de respect.
Si, si.
Chapeau Chapi 86 qui dit « À la fin, Vincent Lindon se rend compte que la famille, c'est plus important que l'argent et tout le monde est content. J'ai pas vu, mais je suis prêt à parier une couille dessus.
» Waouh.
Il est sur la théorie du Scrooge. Ouais. Pour moi, c'est, on dirait une adaptation du conte de Scrooge.
Par contre, ce qui m'intrigue, il parie une couille. Ça veut dire que s'il gagne, il va obtenir une couille supplémentaire.
Dis-nous tout, Chapeau Chapi.
Point trop non faux, Chapeau Chapi.
Chapeau 86. 8-6, c'est peut-être pour ça aussi. Quoi d'autre, Clément?
Alors, quoi d'autre? Bah, sinon, un truc qui ressort particulièrement dans les commentaires, c'est que cette BA, elle donne envie, notamment pour ces deux acteurs. Parce que c'est des acteurs qui sont hyper populaires, hyper appréciés.
Ça,
et il y a quand même vraiment des fanboys de Vincent Lindon, notamment. Comme Jean-François Robineau.
Non, mais il l'adore.
Vincent Lindon, un de mes acteurs préférés, avec Vincent Cassel et Jean Reno, je ne parlerai pas de l'ancienne génération aujourd'hui disparue, malheureusement. Il a de la gueule, notre cinéma français.
Tu sens, on voit tout ce qui c'est ce mec-là. On imagine bien sa gueule.
C'est le gars
tout.
Qui fait Christian Bale, c'est de la merde. Et puis tous les acteurs, Ryan Gosling, c'est de la merde. Mais Vincent Lindon, mon gars, ça c'est du cinéma.
Ça a de la gueule, hein. Ah bah, il n'y a pas besoin d'aller voir les Américains.
Il y a Havana Valotti aussi, grosse fangirl de Vincent Lindon. Vincent Lindon, mon acteur français préféré, je le kiffe, trop beau, très séduisant, un charisme et très 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 humain et humble. Je l'adore. Smiley, cœur. Quel homme, smiley, bisou cœur.
C'est l'acteur des Gilets jaunes, hein. Ça, faut qu'on se le dise.
Elle a l'air de le connaître personnellement.
Il a joué dans beaucoup de films sociétaux, donc qui démontrent pas mal le petit employé, enfin la vie du petit employé aujourd'hui dans notre société merdique, mal foutue.
Oui, notamment dans La Loi du Marché de Stéphane Brisé, où il était exceptionnel.
Très très fort dans La Loi du Marché. Bah, je pense aussi à Welcome, où il traitait des migrants, de la situation des migrants, où il essaye d'entraîner ce jeune nageur qui doit traverser la Manche d'une traite pour rejoindre l'Angleterre. Non, c'est l'acteur du peuple, en
il
fait.
Engagé.
C'est pour ça qu'il est très aimé, Vincent Lindon.
Il choisit bien ses rôles, quoi. Enfin,
et Damien, d'un autre côté aussi, parce que lui, il le représente d'une autre manière, mais avec ses caméras cachées, on l'a connu comme ça, et puis son franc-parler, sa petite bonhomie, sa gouaille qui est très sympa. C'est,
mais ceci dit, là, j'ai l'impression que dans les commentaires, Vincent Lindon ressort beaucoup comme le Patrick Bruel du cinéma, tu vois.
Ah
Il y a des groupies, quoi.
Okay, ouais.
Bon, après, il y a un truc qui a fait beaucoup rire beaucoup de personnes comme toi, Romain, c'est le « On n'est pas des cailloux, Pierre ». Cailloux, Pierre, ok, je sors. C'était Beach Boy TV.
Ça m'a fait très
après,
rire.
Après, enfin, là, c'est pas Ian Cunen qui a écrit le générique, mais il y a un peu une touch dans ses films, c'est les punchlines de merde, quand même.
Ah, Doberman, ce n'est que ça. Ce n'est que des punchlines de merde. Il y en a vraiment, elles sont vraiment, vraiment, vraiment
Alors,
de
merde. Alors, les nôtres.
C'est tout le film.
Moi, j'ai un dernier commentaire qui m'a fait rire parce que c'est une petite interaction comme il en arrive des fois dans les commentaires, les choses se passent. C'est Fabien Didier qui a tagué Ben Ifra en disant « Merde, ton idée de film avec deux personnes que tout oppose, désolé bro. »
C'est
pas du tout original.
Merde, c'est génial.
Ça vient d'être fait.
Mais moi, je l'ai vécu en mode second degré, ce qu'il dit.
Oui,
c'est
drôle,
super
c'est drôle.
J'ai hâte de voir ce duo décapant. Hein, que tout oppose. on verra ça avec Mon Cousin. Merci Clémence pour les petits commentaires des internets. C'était sympathique, mais bon, Mon Cousin.
Vous en pensez quoi de ce titre?
Ouais, ce titre à consonance familiale, c'est déjà vu. Le château de ma mère, la gloire
mieux.
De mon père, Mon Cousin.
Maloute.
La comparaison.
Maloute.
Maloute.
Je sais pas, c'est pas top top. J'ai envie de le changer ce titre.
Allez, on le change.
Allez, changeons-le avec le fait en titre.
Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre.
Le fait ton titre, fait ton titre.
Ça y est, on parle en même temps.
Qui permet de renommer le film.
Mais vous refaites pas un jingle, hein, c'est bon.
Est-ce qu'un jour, Escalator, n'importe quoi, Escalator,
tu t'es trompé.
Est-ce qu'un jour, Escalator, il fera un fait ton titre avec nous, j'aimerais bien.
Escalator, c'est un autre cousin.
C'est ça, éteint toi.
Je sais pas où va cette émission.
Qui a des titres autour de la table?
Mais on est obligé d'en avoir des titres, hein, sinon on est éliminé.
Oui, c'est vrai. Il faut au moins un titre, même un mauvais. Je m'en bats les couilles. Mais...
T'as mis la voix de Yolande Moreau.
Ah bon?
On est éliminé.
Tu lui ressembles aussi.
C'était gratuit. J'ai pas le même âge qu'elle, mais.
Non, c'est pas vrai. Tu es sublime, Clémence. Enfin.
Oui, mais par le talent, tu lui ressembles, Clémence.
Waouh.
Qui a des titres?
Bon, allez, je vais dire mon titre parce que j'avais pas d'idée. Mais comme tu dis, il vaut mieux un titre mauvais que pas de titre.
C'est quoi ton titre?
J'avais pas d'idée de titre. Alors j'ai pensé à un concept. Mon titre, c'est Mon cousin. Mais de l'autre côté.
J'y ai pensé aussi. J'y ai pensé aussi, mais je suis pas allé au bout de mon idée.
Bah voilà. Je sais pas comment on peut le montrer, mais en gros, c'est mon cousin, mais l'autre qui le dit, tu vois.
C'est... En fait, c'est... là, on a l'impression que c'est Vincent Lindon qui parle de François Damiens.
Mais c'est nul.
Mais oui, c'est nul.
C'est le même titre. C'est quoi cette escroquerie?
Bah, et alors
c'est le même titre, mais vu de l'autre côté.
D'accord, voilà. Donc mon cousin. De...
Mais si j'avais été frère et sœur, et que le film s'appelait Mon frère, on aurait appelé ça ma sœur, tu vois ce que je veux dire?
On l'aurait appelé mon père.
Et ça aurait été bien.
Ça aurait pas forcément été bien.
Bon, non, bah voilà.
Voilà, mais non, mais c'était marrant parce que j'avais la même connerie dans ma tête. Johanna, t'as des titres?
Oui, j'étais pas ouf aussi. Alors, j'ai.
C'est
il y en a un qui ressemble à votre titre nul. C'est le fils de ma tante.
J'aime bien. Zéro inspiration, la paraphrase et la solution.
J'en ai un autre, c'est la moula de mon cousin.
Ok.
Et le dernier, c'est Pain Man. Parce que contexte, ça fait penser à Rain Man et tout. Et sauf que là, au lieu que ce soit un Rain Man, c'est un cousin qui souffre de la nusculité de son cousin. J'ai inventé un mot, je m'en bats les couilles.
C'est quoi la nusculité?
Je sais.
Elle vient de l'inventer.
Pourquoi Pain Man?
Parce qu'il souffre, c'est douloureux pour lui d'être face à ce cousin.
C'est un duo à la Rain Man qui souffre.
Ok,
c'est ça.
J'ai pas le déclic pour l'instant, le mec il se prend pour le présentateur.
Ça va être dur d'avoir
pour l'instant, j'ai pas le déclic, je vous avoue.
Tu crois que t'es en train de choisir ta robe de mariée ou quoi?
En fait, il est en train de se positionner, je connais Clément.
Je suis pas encore convaincu là, il manque l'étincelle.
J'y vais ou pas?
Vas-y.
Alors moi j'avais Mon Kounen. Voilà.
Après, les autres sont tellement nuls que j'aime bien.
Bah, c'est presque mieux. Non, mais j'en ai un dont je suis assez fier, c'est le lindon de la farce.
Regarde ça.
Non, mais t'avais
putain,
le même.
C'est incroyable.
Mais c'est pas possible.
C'est le même titre.
Le même titre.
Je viens de montrer mon portable à Clément.
Ouais, ben on a gagné.
Ah, mais
c'est
ça, c'est parce que
même.
C'est Charlotte Aubrez, la dinde,
oui,
la semaine dernière,
ça.
Et tout ça vous a.
Non, mais écuillé. Oui, comme ça a l'air d'être une farce. Et
après,
tout.
La dinde, la farce. Ouais, le lindon de la farce.
Ah, putain, c'est bien,
ouf.
C'est bien.
Et en catchphrase, j'avais Il possède un cousin. Donc, ça, c'est une référence à Ultra Vomit. Kevin, il l'aurait eu.
Ah
putain.
Oui.
Putain, Kevin, tu me manques. Et sinon, en catchphrase, j'avais Mes amis, ma famille, mes emmerdes. Ouais, c'est pas ouf.
Putain,
ouais.
Bah, il est
mais
bien
le lindon de la farce, il est bien.
Bah, le lindon de la farce, j'ai l'impression
du
que
du coup, il te reste quoi, Romain?
Moi, j'avais le lindon de la farce, là, que j'ai écrit en gras.
Histoire de dire que c'était son premier choix.
Le dindon, c'est gras.
Et non, après, j'avais un autre titre, parce que bah, comme c'est un chauffeur de VTC, j'aurais appelé ça le cousin Uber.
Ah, par rapport aux visiteurs.
Mais après,
c'est pas mal.
On sait pas si c'est
un chauffeur.
Il est chauffeur de VTC, il le dit lui-même.
Ah non, il le dit pas.
Il dit, je suis pas ton cousin, je suis ton chauffeur.
Non, mais c'est parce qu'ils doivent partir d'un point A au point B et c'est lui qui conduit. C'est
mais
tout.
Oui, il dit, en voiture Simone, c'est moi.
Bah,
toi
quel
qui
est son
conduis,
travail?
C'est moi qui klaxonne.
Son travail, c'est d'être le cousin d'un homme riche. C'est un travail comme un
le
autre.
Le lindon de la farce.
Ouais, j'en ai bien peur. Hein. Ah, c'est la première fois que je fais un titre pas convaincu, mais ça va être ça.
Non, mais il est bien le lindon de la farce.
Le lindon de la farce.
Et pas de catchphrase.
Mais sinon, c'est mon cousin. Le lindon de la farce.
Non, mais là, c'est le même titre, c'est pas possible. Là,
j'essaye toujours de placer mes trucs.
Bon, le lindon de la farce, c'est pas très original, mais c'est notre titre pour Mon cousin de Yann Kounen qui sort le 30 septembre.
Comment
et qu'on
il
presse...
te dénigre ton titre, Clément?
Non, il avait
plus,
le même.
Votre
même.
Titre, vous avez
notre
la
titre.
Même.
D'ailleurs, nous avons gagné, mais qui résumera l'histoire
Luxa Eterna.
De Luxa Eterna, dont nous allons faire tout de suite le match retour, comme nous ferons un match retour pour mon cousin dans l'épisode suivant. Et en parlant de match retour, passons tout de suite à Lux Aeterna de Gaspard Noé.
DJ, get that shit.
Ça te fait mal quand on te tire dessus?
Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant? C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération?
Mais tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de techniques. T'es nul!
Match retour sur ce film qui ne nous a laissé aucune séquelle, qui est Lux Aeterna, et dont nous allons vous parler tout de suite. Mais avant toute chose, j'aimerais vous résumer l'histoire que nous nous étions imaginée dans l'épisode précédent. C'est parti, ça va être très court. Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg sont sur un tournage. Chacune dans son écran, mais ensemble dans la même pièce, elles parlent du film dans lequel elles se trouvent. Béa dirige Charlotte et s'apprête à la placer sur un bûcher pour une scène enflammée. Mais Giuseppe Verdi, comme les hommes dominants de ce film, n'est pas pour que ça se passe dans le plus grand bien. Ah non, non, non. Et dans la haute violence des violons, il transformera ce tournage en chaos. Béatrice perdra le contrôle de son tournage et Charlotte passera des fraises aux braises pour brûler littéralement dans les flammes de l'enfer épileptique du cinéma de Noé.
Wow.
Voilà ce qu'on s'était dit. En gros, on avait imaginé simplement un tournage qui virait au chaos. Et la scène du bûcher qui se transformait en réelle scène avec de vraies flammes et de vraies souffrances de la part de Charlotte Gainsbourg. Est-ce que nous étions proches de la réalité ou pas? Il va falloir qu'on détermine qui va résumer ce film pour de vrai, du coup. Clément, vu que nous avons gagné le fait-on titre de cette semaine avec ce magnifique titre, qui est le lindon de la
farce. Je propose Clémence.
Oui, moi
attends,
aussi.
Sinon, on fait un jeu. Comme on est quatre et que vous êtes tous deux à avoir gagné, et ben on fait une phrase chacune.
Ok.
De résumé. Oh.
Ludique.
Oh, petit exercice ludique.
Nos auditeurs vont aimer.
Espérons. Espérons qu'ils l'aiment. Espérons qu'on l'aime aussi. C'est parti, Clémence. tu ouvres le bal et vous deux, résumez-nous Lux Aeterna de Gaspard Noé.
Alors, c'est l'histoire d'un film en train de se tourner dont la réalisatrice est Béatrice Dalle.
Sur ce tournage règne un chaos dû à la fatigue de tous et à l'ambiance... qui est déjà présente sur ce tournage où tout le monde est fatigué, tout le monde veut prendre sa place, on va dire.
Tout le monde veut prendre sa place. oui, en fait, notamment parce que donc Béatrice Dalle, c'est son premier film et elle est en désaccord total avec ses producteurs et aussi avec son chef-op. Et par contre, elle est à fond pour soutenir son actrice qui tient le rôle titre, Charlotte Gainsbourg. Et
point.
Et petit à petit, Charlotte Gainsbourg va se retrouver au milieu de ce chaos et s'y perdre elle-même, au point d'elle aussi perdre les pédales et sa confiance au moment de tourner sa scène.
Et ça finit comment?
Et ben, du coup, la scène, ça finit sur cette scène qui est la scène du bûcher. Et bah, on dit du coup
oui,
la réalité.
On va y aller, on spoil. On est obligé de spoiler. Hein, 50 minutes de film, on est obligé de spoiler. On n'a pas le choix là pour le coup.
Donc Charlotte doit aller sur le bûcher. On l'a préparée à brûler sur le bûcher. Et en réalité,
il se produit un problème technique sur le tournage avec des écrans qui sont à l'arrière des comédiennes et qui se mettent à clignoter, provoquant l'épilepsie générale.
10 minutes d'épilepsie, voilà ce qui est. Pour résumer, en gros, hein, Lux Aeterna de Gaspard Noé. Alors, est-ce que la BA nous avait conquis? Oui, on était plus ou moins emballés hein, par ce qu'elle nous vendait, même si on avait quand même une certaine frayeur sur ce à quoi on allait on allait tomber. Et est-ce que le film nous a plu? Est-ce que la BA nous a vendu un bon produit? Ça, on va le savoir avec la page du douille ou pas douille.
C'était une douille.
Douille, 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 pas douille.
C'était pas une douille.
Le douille ou de pas douille qui nous permet de savoir si le film était fidèle ou pas, hein, simplement à sa BA. Qu'en est-il? Tour de table, Clémence, douille ou pas douille?
Pas douille, parce que j'aimais beaucoup le côté bipolaire de la BA entre ses parties épileptiques et le début dialogué entre Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg. Et finalement, je trouve que le film est à cette image. J'aime bien ce qu'il y a dedans, c'est assez varié et voilà, j'ai passé un bon moment.
Pas douille pour Clémence. Johanna, douille ou pas douille?
Pas douille du tout. On voyait dans la bande-annonce la performance des deux comédiennes qui est excellente, je trouve, dans le film. Et leur naturel, enfin, ils jouent beaucoup avec leur naturel. Et moyen métrage, je m'attendais à un exercice de style aussi et c'est ce que j'ai retrouvé dans le film.
Clément.
Je suis d'accord, Padouille, c'est fidèle à sa BA. Après, moi, je m'attendais à une fin plus radicale. Or, je trouve que c'est quand même son film le plus soft, au final.
Et ce qui me fait dire, moi, petite douille quand même de ce côté-là. Pas douille pour ce qui est de l'ambiance en général, mais petite douille sur le fait qu'on s'était complètement imaginé un truc ultra trash, ultra violent ou violent, où on brûlait Charlotte Gainsbourg littéralement par les flammes. Chose qui est complètement con après recul, parce que d'où Saint-Laurent, ils vont signer un film où on crame une personne, ça, je pense que pour l'image, ça l'aurait pas fait du tout. Donc, à part cette petite douille où le film clairement nous envoyait un peu cette entourloupe dans la gueule, en mode on s'est imaginé ça parce que c'était à mon avis fait pour qu'on s'imagine quelque chose d'aussi violent, et c'est pas aussi violent dans la violence physique du film, à part les yeux qui saignent, quoi.
Je suis pas tout à fait d'accord, c'est marrant que tu dises que c'est pas trash, parce qu'en fait c'est juste qu'à mon avis c'est un peu plus subtil que la violence qu'il montre d'habitude, tu vois, t'as pas un viol, mais pour le coup je trouve qu'il y a quand même beaucoup de violence vis-à-vis des deux femmes qui sont au centre du truc, et il y a aussi des trucs un peu annexes comme par exemple le coup de fil de Charlotte Gainsbourg à sa fille, des choses comme ça hyper malaisantes, hyper graves. Enfin voilà, je trouve que si, c'est quand même assez violent. Et puis après, même l'effet de style du
stroboscope. Parce que c'est une violence du quotidien, entre guillemets. Parce
voilà,
que
mais
c'est...
venant de Gaspard Noé, on pouvait s'attendre à un final plus
extravagant.
Plus
sanglant.
Pour moi, je pensais vraiment qu'il allait y avoir des gens qui brûlaient, ou alors que Béatrice Dalle était vraiment une sorcière et qu'elle allait leur jeter des sorts. Enfin, tu vois, un truc fantastique.
Ouais, mais pour moi,
et
il
ça
est...
reste un écran qui clignote.
On en reparlera, mais pour moi, ça ne veut pas rien dire.
Dis-nous,
j'ai pas dit ça, j'ai juste dit que c'est son plus soft.
Dis-nous tout de suite, Johanna, ce que tu as pensé, toi, de ce film.
Écoute, j'ai passé un très bon moment. C'est passé très vite. J'ai pas senti les 51 minutes passer. Qu'est-ce que je peux en dire ? C'était du pur ressenti, hein, comme d'habitude, quand je vois les films de Noé. Je trouve que ce sont plus drôles.
Ouais.
Retrouver l'ambiance de tournage et tout, il y a des choses qui sont très justes. Il a forcé un peu les traits parce que ça se passe sur une courte durée, donc forcément, les personnages sont un peu clichés. Mais ça marche aussi bien parce qu'on reconnaît bien la figure du chef-op. Ça m'a fait penser au documentaire là avec Moki dans son rapport avec son chef-op.
Qu'on entend dans notre générique qui est de Feta BA.
Oui, j'ai presque eu l'impression que c'était une citation. Il y a beaucoup de citations à d'autres réalisateurs, notamment à Jean-Luc. C'est dommage que Kevin ne soit pas là, il adore Jean-Luc.
Non, mais ça lui a beaucoup plu ce moment.
Qu'il appelle simplement Jean-Luc.
Qu'il appelle simplement Jean-Luc en plus.
Parce qu'il faut expliquer que dans le film, c'est coupé par quelques citations, alors 4
oui,
ou 5, je ne sais
c'est
plus.
C'est ça, le film commence avec des citations, puisque c'est des extraits d'autres films. Ensuite, il y a des citations textuelles qui sont écrites à plusieurs moments du film, au milieu du déroulé de l'histoire. Et en fait, là où je ne suis pas surprise. C'est qu'il utilise le procédé qu'il utilise souvent dans ses films. Je trouve que dans chacun de ses films, il annonce ce qui va se passer et c'est ce qui se passe. Et c'est exactement ce qui se passe dans celui-là.
Le film s'ouvre sur une citation de Dostoïevski sur l'épilepsie.
Sur l'épilepsie,
pour
oui.
nous mettre en garde d'une certaine manière.
C'est ça.
Sur ce qui va arriver.
Et en même temps, la citation est étonnante parce qu'il parle du plaisir que ressentent les épileptiques
une seconde
avant la crise. Qui a un moment d'extase un peu, et c'est un peu ce qu'il essaie de faire ressentir aussi au spectateur à la fin du film.
On retrouve d'ailleurs du coup toute la provoque un peu de Gaspard Noé dans juste cette petite citation en début de film, genre en mode crise ou pas crise, à vous de voir, et puis il fait flipper avec ça, surtout si t'es épileptique, quoi, t'as juste envie de te casser de la salle.
Et j'ai vécu aussi le film comme un gros troll de sa part, ça veut dire que ça commence à être un réal de qui en attend certaines choses, et je l'ai vécu à la fois comme un gros doigt d'honneur à ceux qui l'aiment pas, justement qui trouve que son truc est épileptique, ben tu veux de l'épilepsie, en voilà. Et ce moment est beau, en fait. C'est que c'est pas juste des stroboscopes, c'est qu'il se passe énormément de choses. L'histoire continue pendant le moment stroboscopique avec le mec qui fait le making-of, qui montre quelque chose à la caméra au producteur. On a la frustration de pas savoir quoi, mais il y a une espèce de mystère qui plane à la fin du film, on saura... Est-ce que c'est un sabotage ce qui est en train de se passer, ou est-ce que ça symbolise juste la perte de contrôle de tout le monde ? Et au final, ce que j'ai trouvé assez beau, c'est que le personnage de Charlotte Gainsbourg, qui est victime un peu de ce chaos et qui brûle symboliquement, au final, elle finit par embrasser ce chaos et par se sentir bien dans l'image, quoi. Elle retrouve sa place dans l'image.
Et en parlant de place dans l'image, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du procédé du split screen que nous, on avait imaginé étant présent déjà dans la BA, mais qu'on avait imaginé du coup présent dans tout le film, ce qui est le cas ? On a plusieurs écrans partagés, au lieu de faire un simple contre-champ, il met du coup les dialogues filmés sur deux axes différents dans le même écran. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce procédé-là ? Est-ce qu'il vous a pas perdu déjà dans tout ce chaos ?
Non, en fait il est intéressant parce qu'il l'utilise un peu tout le long, mais pas toujours pour les mêmes raisons. Et sa réal, comme dans plusieurs de ses films, évolue beaucoup au fur et à mesure avec l'état de stress et de perte de contrôle des personnages. Donc au début, quand t'as les deux femmes qui parlent toutes les deux posées et que c'est en split screen, ça permet de voir, bien les voir toutes les deux et d'être vraiment dans l'échange avec elles. Et on sent ce côté très posé, elles sont tranquilles, quoi. On vient pas les faire chier. Et après, c'est tout autre chose parce que ça continue en split screen alors qu'elles vont des loges maquillage au plateau, aux coulisses. Et il y a un moment, par exemple, où je le trouve très intéressant, le split screen, c'est quand il suit Charlotte Gainsbourg. On a le plan sur elle qui essaye un peu de fuir et d'aller passer un coup de fil tranquille et d'avoir un moment à elle. Et en même temps, il y a le gars qui fait un making-of, là, qui a été mandaté par le producteur pour espionner Béatrice Dalle et voir ce qui se passe, qui la suit comme une espèce de paparazzi horrible. Et en fait, on le voit toujours qu'il la suit, quoi. Ça donne un côté hyper oppressant. Ouais.
Et ça lui permet en 52 minutes aussi de raconter une histoire dans plusieurs lieux en même temps, parce qu'il se sert souvent du split screen pour mettre deux lieux simultanés, et donc ça te permet de suivre à la fois Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle dans le même plan, donc c'est assez habile aussi en termes pratiques, en fait, ça lui fait gagner du temps.
Et puis de montrer aussi le chaos d'un côté, et Charlotte Gainsbourg qui, elle, subit les conséquences de ce chaos. Donc c'est un peu difficile à suivre par moment parce que tu sais pas trop regarder en termes de sous-titres, en termes d'écran, en termes de lumière, parce que c'est du vert, du rouge, du bleu. C'est très, très basique, hein, c'est du RVB quoi, tout le long du film. Mais ça apporte une certaine ambiance et ça apporte un peu plus au chaos le split screen. Donc du coup, je trouve qu'il est très bien utilisé pour raconter quelque chose, effectivement, sans que tu perdes rien. Parce que tu peux aussi re-regarder le film en te disant, cette fois-ci, je me penche plus sur la gauche que sur la droite. Et d'y insérer peut-être aussi des symboles, des mystères, parce que c'est un film quand même qui est très mystérieux. Moi, j'aimerais comprendre le sens de ce film.
Ah, moi, j'ai vraiment. Pour moi, c'est pas mystérieux du tout.
Tu crois pas qu'il y a beaucoup de symboles qui font que ça veut raconter plus que ça ne montre ?
Non, en fait, c'est pas que ça veut raconter plus, c'est que pour moi, ça raconte plusieurs choses à la fois et ça les entremêle. Et c'est ce que j'ai vraiment adoré, c'est ce qui m'a fait aimer le film. Si tu veux, du coup, j'en profite pour te donner mon avis.
Vas-y.
Oui, en fait, pour moi, le film parle d'une chose principale qui est un pétage de plomb dans tous les sens du terme. Et du coup, ça se passe à plusieurs niveaux, tu vois. T'as le tournage sur lequel les gens pètent les plombs sous la pression. T'as le pétage de plomb littéral avec les lumières du plateau qui sautent. Mmh. T'as l'envie de faire péter les plombs à une comédienne pour obtenir une intensité un peu spéciale dans le jeu. Et ça m'a vraiment passionné parce que c'est annoncé dès le départ avec un des cartons où ils montrent les vieilles images du film de Dreyer avec la nana sur l'échelle qui est jetée sur le bûcher. Et il y a écrit « Il faut savoir que la nana était restée je ne sais pas combien d'heures sur cette échelle » et que quand ils l'ont jetée, le cri qu'elle a poussé était aussi lié à cette intensité qu'elle a vécue physiquement. Ouais. Et ça, pour moi, ça annonce un peu son propos, parce que c'est ce qu'il montre vis-à-vis de Charlotte Gainsbourg, et c'est pour ça que moi, je dirais pas qu'à la fin, elle embrasse ou qu'elle est bien dans le truc. Non. Pour le coup, je trouve que ça se termine plutôt sur quelque chose d'assez négatif pour elle. Malheureusement, elle est vraiment victime, c'est que le chef-op prend un plaisir fou à la voir, ne pas réussir à se détacher de son poteau et à être dans ses lumières. Et en fait, il obtient du coup quelque chose de sa part, une vraie détresse qu'elle n'aurait pas eu autrement.
D'où ma question sur la force symbolique, justement, parce que je trouve que cette scène, elle est symboliquement très très forte, parce qu'elle exprime beaucoup de choses, notamment sur le non-consentement de l'actrice à ce moment-là, qui refuse de participer, mais qu'on force à baigner justement dans tout ce chaos, dans toutes ces lumières, ces sons qui donnent la nausée. On lui dit « joue, joue, joue » et on lui laisse pas le choix, quoi. Donc je pense que ça veut dire beaucoup plus en termes de symbole sur la domination des hommes.
C'est exactement ça. En fait, c'est pas anodin que ce soit une femme versus un homme chef-op.
Il y a que des hommes.
Ouais, vraiment, il parle à la fois, il entremêle deux choses qui est le comportement dictatorial des hommes vis-à-vis des femmes depuis la chasse aux sorcières, depuis cette époque-là. Et qui est encore peut-être d'actualité sur un plateau de tournage quand t'es une femme en tant que réalisatrice ou quand t'es une femme en tant qu'actrice, et ce comportement des hommes vis-à-vis d'elle. Et il y a même d'ailleurs des personnages secondaires comme la jeune actrice, celle qui est dans Neon Demon.
La mannequin.
Voilà, et pareil, qui est paumée et qui est juste là pour être un corps. Le comportement de ces jeunes mecs là qui veulent absolument proposer un truc à Charlotte ou quoi et qui se sentent pas respectés et qui le vivent mal et qui du coup sont contents de l'avoir en détresse à la fin. Enfin voilà, je trouve que ça dit finalement beaucoup de choses sur la condition dans laquelle on met les femmes sur un plateau de tournage. Pour moi, c'est assez féministe de ce point de vue-là.
Je suis d'accord avec toi.
Du coup, je trouve que vraiment, c'est un film qui est un gros chaos, comme vous disiez. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce que il le dit lui-même, Gaspard Noé, pour lui, dans le chaos, il y a de la jouissance. Moi, je dirais que dans le chaos, il y a de la vie. Et ça revient à ce que je trouvais dans son cinéma tout le temps jusque-là. C'est qu'il y a toujours de la vie dans le brouhaha, dans le chaos et tout. Tu vois les gens tels qu'ils sont réellement, et ça fait ressortir voilà, des choses très très justes. Et finalement, quand je suis sortie du film, j'ai eu aussi une sensation d'un shoot d'adrénaline, tu vois, cet effet stroboscopique, il est désagréable, mais ça m'a un peu exalté, quoi.
C'est
comme
tous
ces films.
C'est un peu envoûtant. Mais il est très fort sur ce point de vue, Gaspard Noé, pour représenter le chaos. C'est très très dur à faire le chaos, de montrer le chaos, parce que montrer le chaos à l'écran, ça veut dire organiser le chaos. Ouais. Et organiser le chaos en mise en scène, c'est un tour de force, quoi.
En fait, on a l'impression qu'il a laissé une liberté à ces deux comédiennes, mais en même temps que c'est ultra cadré.
Et puis ça nous rappelle aussi un peu des souvenirs de tournage, Clément, Johanna.
Mais, complètement.
On a déjà tourné ensemble et on n'a peut-être pas atteint un chaos aussi fort. Parce que,
ça se passe comme ça au tournage ?
Certaines fois.
Il y a des
moments
de speed qui sont chauds. Ouais,
c'est très stressant.
Humainement, c'est tendu des fois. Mais là, bon, là ça va très loin. Mais c'est vrai qu'il a mis le doigt sur ça. Et pour aller dans ton sens, Romain, il demandait aux gens sur Lux Aeterna de venir à partir, enfin notamment aux comédiennes, de venir à partir de 16h, mais en fait elles tournaient qu'à 2 ou 3 heures du matin. Oh. Et en gros, c'était pour les mettre dans un état à la fois d'épuisement et de relâchement, et c'est Béatrice Dalle qui le raconte, qui fait que t'es plus disponible à ce qui peut se passer. Et je suis d'accord que le chaos organisé, et en même temps je pense, vu Gaspard Noé, en fait je pense qu'il chorégraphie les mouvements de caméra, mais typiquement je pense qu'il y a des gens à qui il dit bon bah vous faites un peu ce que vous voulez, vous, du moment que vous passez dans le champ, vous dites 2-3 trucs. On sent que les dialogues sont complètement pas écrits, c'est super en impro et spontané comme d'habitude chez Gaspard Noé. Et du coup il y a 2-3 comédiens qui jouent quand même pas très bien, genre le producteur et tout, enfin ça m'a un peu gêné quand
oui
même.
C'est vrai, il y a des moments un peu chips.
Après c'était pareil dans Climax, hein. Le niveau de jeu est variable forcément parce que t'es en impro, donc voilà, mais au moins il capture de la vie à l'écran, et c'est vrai qu'il a super bien retranscrit un tournage. Moi, pour donner mon avis, la première partie m'intéresse beaucoup avec Dalle et Gainsbourg. Je trouve que cette séquence inaugurale, elle est juste folle. Enfin, elles se disent rien de spécial, mais tu sens quand même tout le rapport réalisatrice-comédienne, une vraie complicité entre elles et tout. Et tu te dis au début, ah ben peut-être ce tournage, ça va bien se passer. C'était un peu naïf parce qu'elles ont l'air de super bien s'entendre et tout. Et en même temps, elles sont très différentes. C'est pas du tout le même style de comédienne. Et puis, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils jettent pas mal de pistes au début sur des éléments perturbateurs. Donc, c'est un peu comme la sangria qui va être droguée dans Climax. Tu sais pas trop d'où le coup va venir, en fait, parce que t'as le chef-op qui est complètement despotique, il y a un espèce de mec qui est un comédien réalisateur qui veut absolument parler à Charlotte Gainsbourg pour lui parler de son projet de film parce qu'il veut qu'elle joue dedans, et du coup il la lâche pas, il est super lourd et tout ça, t'as un espèce de journaliste intrusif, t'as des actrices qui sont très en colère et tout, et du coup tu te dis mais d'où ça va péter en fait, et moi c'est là où j'ai été un poil déçu, c'est qu'il me crée une grosse attente scénaristique de se dire putain ce tournage c'est une cocotte minute et ça va exploser, et en fait la résolution est symbolique et graphique, et ça m'a gêné en fait. C'est con, mais qu'on sache pas qui a saboté l'écran qui clignote, ça m'a gêné, et c'est vrai que je m'attendais à un peu plus, qu'il aille un peu plus loin, et là ce qui m'a gêné un peu plus, c'est que je me suis dit ça c'est Saint-Laurent. Et je pense que si on lui avait donné l'argent avec une prod normale, il aurait fait un truc beaucoup plus extrême à la Climax. Et là, je peux pas m'empêcher de me dire que quand même, c'est les actrices qui ont des super belles robes et tout, et il avait pas envie de les brûler, tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et il y a un truc que je me suis dit, ah merde, là, il retient un peu les coups, et ça m'a gêné dans sa filmo. Donc je pense que c'est intéressant parce que c'est un film qui est à part dans sa filmo déjà par sa durée. Et je pense que ça peut être une super bonne porte d'entrée pour des gens qui connaissent pas Gaspard Noé et qui veulent un truc un peu cool, tu vois. Tu regardes ça, après tu regardes Love et après tu vas monter Enter the Void, Irréversible et tout. Mais moi, c'est un aspect que j'aime moins, cette fin-là. J'avoue que j'ai trouvé moins de symboles féministes et sorcières que vous, mais vous m'avez aussi un peu ouvert les yeux là, avec le match retour. J'ai trouvé ça un peu gimmick, en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, tu nous crames les yeux, bon, d'accord, ça raconte quoi ? Je voyais pas trop après le visionnage. Et là, en vous écoutant, c'est vrai que je vois un peu plus, mais j'aime un peu moins ça.
Ouais, mais juste pour dire que c'est pas que symbolique, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au final... C'est une addition de choses. Ben, tu sais très bien comment ça se passe sur un tournage. C'est chaque maillon de la chaîne est lié. Et là, c'est une addition d'attitudes, de pouvoir, de rapport de force entre les gens qui mène quand même à un problème technique qui mène à ça. Et pour moi, ça raconte aussi, entre guillemets, un système qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire tout le monde qui veut tyranniser, tout le monde qui veut prendre sa place, qui veut faire le film à sa place. tout le monde au final qui fait de la merde et au final il y a un problème technique et là on sait plus qui l'a fait. Enfin, on sait plus d'où
ouais,
ça
je
vient.
Suis d'accord,
mais la conséquence,
quoi,
elle est la même.
Il raconte quoi ce problème, tu vois, par rapport
moi,
à tout ce qui t'a mis en place avant, quoi.
Au moment où il y a le problème, comme disait Johanna, ça continue de raconter quelque chose. Et pour moi, ce qui ressort vraiment à ce moment-là, c'est le gros plan sur ce chef-op et ses paroles qui s'adressent à Charlotte Gainsbourg et qui est dans la. Lui, il est dans la jouissance de ce moment-là. Il a repris les choses en main et il jouit de ce chaos. Et pour moi, c'est le propos est vraiment là. C'est une partie du propos. C'est ce gars qui cite Jean-Luc, qui a un côté à moitié ironique et à moitié, ben, il l'assume, Gaspard Noé, parce que si tu dis qu'il a laissé ses actrices attendre super longtemps avant de jouer pour les mettre dans un certain état, il fait lui-même ce qu'il est en train de montrer. Et pour moi, c'est ça, c'est montrer ce gars qui, d'un seul coup, est trop content d'avoir repris le contrôle là où il n'était pas satisfait de travailler avec une femme réalisatrice qui ne l'écoutait pas. Ouais. Il était dans un inconfort d'homme pour moi, tu vois. Et là, à ce moment-là, il est trop content et il cite du Jean-Luc parce que pour lui, c'est vraiment ça. C'est un peu ce que dirait Eric Neuhoff, tu vois. C'est vraiment le cinéma à l'ancienne, celui de Jean-Luc.
Ouais.
Ah, merci,
ouais,
qui triomphera toujours.
On reste sur la symbolique. Ouais. Moi, il me manque scénaristiquement, je parle purement du point de vue scénario, il me manque une scène avec le chef-op qui sabote le tournage. Tu
alors,
vois
j'ai une idée par
mais
rapport à ça.
Je suis même pas sûr que ce soit lui, en fait. Ouais.
J'ai une idée par rapport à ça. Déjà, à ce moment-là, on est dans le climax du film, hein, le moment où les écrans commencent à partir en steak et que toutes les couleurs se mettent et que ça devient très épileptique. Hein. 10 minutes de film à peu près hein, sur ouais. 50 minutes. Donc ça représente quand même un bon gros paquet de pourcentage de films où tu te bouffes de l'épilepsie en pleine gueule. Et je pense qu'en fait, au départ, alors jouant sur le fait qu'il avait des fonds fournis par Saint-Laurent, entre autres, à ce moment-là, de faire partie de cette expérience artistique, il s'est dit, moi j'ai un petit délire depuis longtemps, c'est quand même d'en foutre plein la gueule aux gens, pas forcément dans la violence de mes propos, de ce que je montre à l'écran, mais dans la violence juste des couleurs, du son et de l'image en gros qui va venir te violenter les sens, quoi. Et donc il a utilisé ce prétexte-là de commande pour pouvoir faire son Lux Aeterna, ce qui n'était pas forcément peut-être Lux Aeterna au départ, mais en tout cas son idée de scène épileptique, vraiment là à fond les ballons. Il a utilisé ça, donc évidemment il a dû mettre de l'eau dans son vin, si je peux dire ça comme ça, en ne montrant pas de vraie violence physique, parce qu'il est clair, et ça on aurait dû le deviner, que Saint-Laurent ne serait jamais associé à quelqu'un qui tuerait ses actrices, et surtout Charlotte Gainsbourg. Et pour revenir sur l'idée de l'homme qui prend la place des femmes, dans ce climax-là, c'est à ce moment-là où les femmes qui sont totalement... qui n'ont plus le contrôle, en fait, qui sont obligées de suivre les paroles d'hommes, parce que Béatrice veut arrêter, Charlotte Gainsbourg veut arrêter ce tournage qui devient complètement chaotique, et ils décident que non. Ils reprennent la force des choses en disant « L'art, ça se fait dans la souffrance. » Et je pense que là, tout le symbole, il est là, parce qu'en plus, ça rejoint aussi tous les cartons durant tout le film où Noé nous apprend que le cinéaste suit une certaine règle en termes d'émotion, en termes de retranscription des outils du cinéma à l'écran. Et tout ça mis aujourd'hui, en passant par la tête de Noé, qui est complètement dingue, avec les moyens de Saint-Laurent, la lumière, bref, il a réussi à faire ce petit délire-là de court-métrage qui vient nous violenter la gueule, qui vient nous brûler la rétine, en fait. Et c'est vrai que ce moment d'inconfort total vers la fin, moi, je l'ai subi à fond. Je me suis dit, ben, laissons-nous emporter par l'expérience, parce que n'oublions pas que les films de Gaspard Noé sont une expérience à chaque fois qu'il réussit à se renouveler. Et là, pour le coup, ça m'a fait un peu plaisir de voir que cette violence n'était pas juste de la vraie violence et qu'on tapait pas sur des femmes, qu'on les brûlait pas, mais qu'on utilisait l'art pour nous mettre à l'épreuve, en fait, directement spectateurs. Et c'est ce qu'il dit à travers toutes ces citations, à travers l'épilepsie citée au début, à travers Godard qui est cité, et Buñuel à la fin, qui là où il fait un rapport avec la religion. Qu'est-ce qu'il dit,
ouais,
déjà, Clémence?
Oui, la citation de Buñuel à la fin, c'est « Dieu merci, je suis
Dieu
athée ». Mais c'est vrai que ça éclaire beaucoup le film, parce qu'à mon avis, il a aussi tout un propos sur justement cette sacralisation de l'art cinématographique. Et effectivement, je pense qu'il a un propos général sur une idée idéal de ce qu'est faire du grand cinéma, qui est aussi une idée cruelle, parce que, comme tu dis, c'est la douleur dans l'art.
C'est la cruauté,
et pour moi, du coup, d'ailleurs, tout ce que tu viens de dire, ça répond aussi à la question de Clément. C'est-à-dire que dans l'idée de faire une expérience, ce climax, il le fait vivre aussi au spectateur. C'est-à-dire que c'est pas... Si la fin, c'était juste de brûler une des comédiennes, on aurait vu des comédiennes se faire brûler, entre guillemets. Pour moi, c'est même pas tant... j'ai pas envie de brûler des robes Saint-Laurent, même si peut-être qu'il y a de ça, mais le fait de le faire vivre aussi au spectateur, ça te fait vivre vraiment cette expérience avec la comédienne. Et du coup, il te met aussi du point de vue de la victime. En
parce guillemets. Que sinon, il aurait fallu qu'il nous fasse brûler sur nos sièges.
Ben, c'est ça. Et là, il te met aussi.
Elle peut avoir ce film en 4DX.
C'est ça. Il fait ce qu'il nous fait tout le temps. Il te met du point de vue de la victime et de la personne qui vit la chose. C'est-à-dire que comme c'est un effet de lumière, ben, tu te le prends dans la gueule aussi. Quoi.
Oui, mais elle est dos au truc.
Oui, mais.
En fait, l'effet, il est pour
oui,
nous.
Oui, mais elle est face au gars. Qui ne vient pas la détacher.
La souffrance là, elle est plus pour le spectateur que pour le personnage.
Bah, pas que, parce que c'est horrible. Elle est en inconfort, elle est attachée, elle veut arrêter. T'as un truc qui clignote dans son dos, elle arrête pas de hurler. Pour que, en plus, elle a plus d'oreilles là parce qu'il y a un Larsen. Mm. Elle arrête pas de crier qu'on vienne l'aider. Il y a Béatrice Dalle qui hurle aussi pour que quelqu'un aille la détacher et personne ne fait rien.
Et au final, le calme revient. Plus ou moins.
Mais non, c'est pour ça que je l'ai vécu positivement la
et
fin.
On comprend, enfin, du moins ce que j'ai compris dans la posture de Charlotte Gainsbourg sur son bûcher à ce moment-là, accroché à son poteau, littéralement attaché, hein, elle ne peut pas se détacher, qu'elle se finit par se plaire dans cet exercice-là et qu'elle a peut-être dépassé. C'est peut-être ce que veut nous montrer Noé, qu'il faut passer par la souffrance pour arriver à l'extase.
L'extase de l'épileptique, peut-être.
Et j'ai l'impression qu'en termes d'actrice, à ce moment-là, vraiment, de son boulot d'actrice à ce moment-là, Gainsbourg nous montre qu'elle kiffe. Je ne sais pas si vous avez eu cette impression-là.
Moi, je n'arrive pas à croire à cette théorie, parce que pour moi, à côté, il y a aussi tout un aspect. Donc, en plus de l'image qu'il donne de ce qu'est faire du cinéma, il y a vraiment le côté cas concret de quand des femmes sont sur le plateau. Et donc, il y a à côté de tout ça le contexte de il la met dans sa position de mère. De mère qui doit gérer son travail et sa vie privée et son rôle de mère. Donc déjà, je ne peux pas croire qu'elle se plaît et qu'elle oublie tout et tout et qu'elle est bien d'un seul coup, alors qu'il y a ça à côté, qu'elle est inquiète pour sa fille et tout, tu vois. Pour moi, c'est plus cette image à la fin là qui se...
Ah, de mort symbolique,
qui...
ouais.
C'est plus nous montrer, voilà comment on fait du bel art. Voilà, je vous montre selon que à la fin c'est beau. Ouais. En gros, mais
oui,
c'est théorique. Quoi,
selon les hommes. Ouais.
Selon
ouais.
les hommes.
Et voilà comment on y arrive. Est-ce que ça crée un truc qui te donne une sensation de bien-être par la beauté,
ouais,
mais en fait,
c'est vrai qu'elle finit par disparaître. Son corps finit par disparaître dans les lumières et les lumières prennent place plus que laisser que ça jusqu'au générique de fin. Par contre, on a un symbole qui apparaît là à ce moment-là.
Ouais, c'est ton symbole.
Non, mais ce fameux symbole, je veux dire, il est vraiment mis en avant dans le sens où c'est presque la dernière image du film, quoi. Parce que ce symbole, il est comme climax, comme le titre climax apparaît à la fin de son film, qui n'est pas vraiment net, qui apparaît un peu dans le brouillard, ouais. Perdu dans sa typo totalement floue. Là, on a ce symbole qui est là en fond et qui décolle, qui vole un peu comme ça au milieu de cette croix avec un toit. Je ne sais pas ce que ça veut dire, simplement peut-être pour
c'est
foutre de la
de
gueule
sorcière.
De la religion.
Ouais, je pense que c'est peut-être un truc de sorcière. Ouais.
J'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais c'est vrai qu'en tout
parce
cas...
Parce que tu n'es pas une sorcière.
Il s'affirme là en termes religieux, en appartenir à aucune. Peut-être
mais
que
justement,
c'est pour répondre
pour moi,
aussi à certaines accusations.
C'était pas un truc de sorcière, mais plutôt un truc de, voilà, d'un seul coup, on a atteint le niveau sacré de ce qu'est cet art. On a atteint l'ultime beauté.
Je le trouve sataniste, ce symbole.
Ah merde. Pour moi, c'est un truc de la religion catholique, tu vois, de base, quoi. Et c'était en gros quand
avec le toit en plus, je sais pas, je trouve ça inquiétant. Mais sinon, juste dire que les actrices sont quand même incroyables.
Oui.
Vraiment, Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle, moi, je les ai jamais vues comme ça. Et que rien que pour ça, ça vaut le coup de voir le film. Après, il faut quand même prévenir, parce que nous, on est très Noé et tout. C'est quand même. La fin est vraiment très pénible à regarder.
Oui.
Vraiment, si vous êtes épileptique, que vous avez des migraines et tout, soit n'y allez pas, sincèrement.
Soit prenez des lunettes.
Moi, ce que j'ai fait, c'est parce que moi, j'ai des migraines ophtalmiques souvent, j'ai mis des lunettes de soleil pendant, et c'est vrai, hein, pendant la séquence de fin, et franchement, ça aide à supporter. Et quand je les ai enlevées, je trouvais ça vraiment insupportable, ça me niquait les yeux. Donc voilà, c'est Gaspard Noé, il va à fond, donc soyez prévenus, cette fin est un peu difficile, quoi.
Mais voilà. Il te fait presque un syndrome de Stendhal, en fait.
Oui,
c'est vrai.
Ça se rapproche de ça, ce qu'il décrit de la crise d'épilepsie, le bonheur avant la crise, tu vois. C'est un truc qui est tellement insoutenable, tellement de l'art au sens ultime que tu le supportes pas.
En tout cas, j'ai kiffé l'expérience. Franchement, j'ai kiffé l'expérience.
C'est
pas
à vivre.
C'est pas son meilleur. On peut pas le qualifier de pur Noé, mais en tout cas, dans sa filmographie, je trouve que ça fait extrêmement sens.
C'est le plus expérimental aussi, je trouve.
Parce que ça réunit un peu toutes les thématiques de Noé, si ce n'est vraiment la violence à l'écran. Mais là, qui est réfléchi autrement. C'est intéressant comme expérience. C'est très troublant. C'est, C'est du Gaspard Noé, quoi. C'est du Gaspard Noé, du mini Gaspard Noé. C'est... Faites-vous ça. 50 minutes, c'est pas beaucoup. C'est le temps d'une série.
Kevin n'est pas là, malheureusement, pour donner son avis parce qu'il a très mal vécu et qu'il s'en est parmi.
On pense à lui. Il est dans le coma.
Non, je veux dire, il a très mal vécu les stroboscopes.
Il est dans le coma depuis deux jours.
Contre, avant de tomber dans le coma, il m'avait donné l'avis sur le son avis sur le film avant qu'on arrive aux urgences. Et il a bien aimé. Et lui qui n'était pas. Enfin, je me permets de parler pour lui, lui qui n'était pas. Forcément convaincu à 100% par Noé. Là, je sais qu'il m'a dit en sortant, il est quand même super intéressant ce réel.
Ouais.
Et c'est comme vrai. On disait la dernière fois, il y a un goût de reviens-y et ça donne envie de voir ses futurs projets.
Mais moi, j'aime bien. Voilà, il nous demande de dépasser notre critique, si ce n'est juste c'était bien, pas bien. Là, on peut pas dire. Franchement, je peux pas dire c'est bien, pas bien.
Ouais,
c'est juste à vivre.
C'est pas non plus.
Et
ouais.
D'ailleurs, il y a un truc.
C'est difficile de faire un match retour sur.
J'ai parlé avec une autre amie qui était à une autre séance que nous et comme nous, à la fin de la séance. Quasi tout le monde, à part une personne qui est sortie, est resté pendant 10 minutes dans la salle et les gens parlaient entre eux du film. C'était assez dingue.
Bah, ce qu'on a fait aussi.
Oui, ouais. Exactement ce qu'on a fait.
Je sais pas si parce que le film il dure 50 minutes, mais quand il s'est terminé, on s'est tous retrouvés. Mais d'habitude, on se lève et puis on sort.
Bah, oui.
Là, on est resté sur nos canapés, on était en mode ouais, voilà, et puis on a discuté 10
t'as
minutes.
T'as besoin
comme
de débriefer.
Ça. Ouais, je crois que t'as besoin de débriefer. Puis tu viens de bouffer 10 minutes de couleur intempestive dans ta tête. Ça fait mal.
J'avoue, je l'ai un peu insulté au milieu. J'ai fait quel connard.
Donc, un film qu'on recommande à tous les amoureux du cinéma et puis à tous les amoureux des sensations fortes, mais qu'on peut aussi, à mon avis, recommander à d'autres personnes.
Ah oui.
Qu'en est-il ? Eh ben, voyons-le avec la page des Rococo.
À qui le Rococo ?
À qui le recommandez-vous ?
À qui le Rococo ?
À qui le recommandez-vous ?
À qui ?
Les Rococo, donc, qui nous permet de recommander en humour et avec beaucoup de mauvaise foi ce film à des personnes choisies. Clément, à qui recommandes-tu ce film cette semaine ?
J'ai mis si vous habitez dans le Nord et que vous n'avez pas pu utiliser vos lunettes de soleil cet été, bien ce film, c'est l'occasion de s'en servir.
Et peut-être de bronzer, qui sait ?
Oui, vous pouvez même bronzer si vous le revoyez.
Alors venez avec vos lunettes de soleil et votre crème solaire. Johanna, des Rococo.
Ouais, moi je vais le recommander à tous les amis techniciens dans le spectacle et dans le cinéma. Il y a des moments super marrants. De vannes sur les techniciens, notamment la vanne sur Dieu et les techniciens. vous comprendrez.
C'est vrai qu'on pourrait croire à des gros clichés, mais notamment le chef op, ça c'est des personnages que nous on a déjà rencontrés dans notre.
C'est vrai. On ne citera pas de nom, mais.
Non. Clément, à qui recommandes-tu ce film ?
Moi, je le recommande pour les adeptes de l'épreuve des poteaux à Koh-Lanta. Parce que là, avec Charlotte, il y a du level. Elle tient longtemps.
Elle tient longtemps.
J'avoue.
Et en plus, elle a des difficultés supplémentaires. Toi, t'as des recos, Romain ?
Ah oui, moi, je recommande ce film à tous les amoureux de l'attraction Space Mountain à Disneyland, parce que là, vous allez vous en bouffer plein la gueule, quoi. Alors, les loopings, ils seront à l'intérieur de votre corps, mais ça procurera la même sensation de nausée, voire de gerbe. Accrochez-vous. En tout cas, c'est une expérience à ne pas louper. Voilà pour les rococo. Bon, ben, sur ces bonnes paroles... Hein. Je pense qu'on va se dire au revoir, les amis. Qu'en pensez-vous ?
Au revoir.
Allez, puis on parle de ce qu'on fait la semaine prochaine. C'est parti.
On n'est pas bien ?
Si.
Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander.
Voilà, voilà pour ce qui était de ce duo de sales gosses hein, cette semaine. Ce qui est marrant, hein, le hasard du calendrier a fait que les deux copains du ciné français se retrouvent côte à côte avec Yann Kounen d'un côté pour l'ABA de mon cousin que nous on va aller voir dès le 30 septembre pour se faire le match retour comme on vient de le faire avec Lux Aeterna de Gaspard Noé.
Et dans pas longtemps, il y a du Pontel
qui sort.
Et ouais. C'est marrant, hein. C'est marrant comment c'est foutu, mais on reparlera certainement de Yann Kounen et peut-être de Gaspard Noé en se faisant peut-être l'ABA du prochain du Pontel. Mais en tout cas, pour la semaine prochaine, je vous préviens qu'il n'y aura pas d'épisode.
Oh non.
Mais pourquoi, Romain ? Vous allez me demander.
Mais pourquoi ?
Est-ce que tu as un mot d'absence ?
J'ai peu mieux, parce qu'il n'y a rien au cinéma. J'ai fait le tour un peu de la progra, et c'est des films qu'on a déjà plus ou moins fait.
Mais tu es fou, et non. Ce film kurde sous-titré en hébreu qui sort dans la MK2, moi je voulais le faire.
Qui sort dans une demi-salle en France.
Mais tu es fou, il est de bon ton de dire qu'il y a plein de choses au cinéma en ce moment, qu'il faut
oui,
aller au cinéma.
Oui, je sais, mais je veux dire, pour notre émission, nous on va pas vous rebâcher les mêmes films qu'on a déjà fait. On a un ersatz de... les choses qu'on qu'on dit, les choses qu'on fait. On a des films américains avec De Niro, alors tu sens que le truc sort de sous les dossiers d'Hollywood. Enfin, si c'est pas intéressant, on fait pas. C'est aussi un petit prétexte hein, pour se reposer un peu. Et puis nous, on reviendra encore plus boosté dès la semaine du 14 octobre pour la sortie du prochain Vinterberg.
Oh. Drunk.
Le fameux, qui s'appelle Drunk et qui va explorer l'une de nos plus grosses passions.
L'alcool.
L'alcoolisme. Oui.
Et aussi Mads Mikkelsen.
Oui, et c'est vrai qu'il est assez passionnant.
En plus, Mads Mikkelsen et l'alcool.
Et l'alcool, mais oui. Bon, ça va être... Je signe tout de suite.
C'est ça, ça va être notre anniversaire.
On va voir, on va
vous
se faire.
Vous savez qu'un jour, j'ai rêvé que Mads Mikkelsen me payait des verres dans un bar.
Et alors
voilà. Mads Mikkelsen et l'alcool.
Ah, suis un peu. Il voulait que tu atteignes la limite du 0,5 pour voir s'il pouvait être.
Non, il voulait me pécho.
Ah, il t'a pécho
Non, en fait, il y avait Kevin après qui arrivait. Ah, et du coup, on devenait un peu potes. C'était un peu un
nom. Je te jure, ces colocataires, ils sont embêtants.
Mais
des
rêves,
fois.
C'est fait pour faire ce que tu veux, hein, personne te jure. Hein. T'aurais dû y aller.
Mais mon inconscient était trop coupable.
Enfin, on verra ça. On s'enivrera de cette BA. Drunk de Vinterberg. On revient dans 2 semaines. Vous pouvez. En attendant, venir parcourir nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, likez, abonnez-vous, faites-vous plaisir, parlez-en. Voilà, parlez-en à votre cousin, pourquoi pas, hein, ou à votre cousine. Et si vous voulez nous écouter, on est sur toutes les plateformes d'écoute.
Oui. On peut remercier Spotify France.
Oui, Spotify France
qui nous a mis en avant.
C'était sympa, merci Spotify, ils nous ont bien mis en avant. Et voilà, et vous pouvez écouter du coup tous nos épisodes sur Spotify. Si cela vous chante. Les loulous, on se dit à dans 2 semaines.
Allez,
allez.
Des bisous,
des
les
bisous,
cousins.
Bisous.
Salut,
allez,
salut.
Les cousins, à la prochaine.
Les cousins.
Shoshana!
Putain, 1h30, c'est rare hein, qu'on fasse un épisode aussi court.
C'est très bien,
c'est non, ça, c'est quoi. Bien aussi, ça change.